Salut la gang! L'émission Nageoires avec Jeff Fortin et Pascal CV, ton émission d'actualité du midi. On te lâche pas, même sur la période estivale. On va continuer à bien t'informer. D'ailleurs, on va avoir deux entrevues très intéressantes dans la première heure. Catherine Gentilcœur du Parti québécois. On va regarder les propositions en habitation, Pascal, du Parti québécois. Oui. On a eu hier Karine Boivin-Roy, qui est la ministre de l'Habitation du côté de la CAQ. Moi, je continue à penser qu'envoyer les gens dans les logements vacants des immeubles à condos avec un petit supplément au logement, c'est la bonne façon de faire. On va augmenter l'estime de soi plutôt que de construire des HLM qu'on n'est pas capable d'entretenir. Donc, on va demander si le PQ a cette petite idée-là ou si le PQ dit comme la CAQ ou comme Québec solidaire, faut taxer. Il faut juste taxer les gens.
On en parlait hier, puis on se demandait si c'était réellement la solution. 88-971-1021, c'est sûr qu'on a des propriétaires d'immeubles qui pourraient nous répondre aussi là-dessus. Ce serait quoi pour vous la solution? La voyez-vous? Mm-hmm. Comment est-ce qu'on protège le locataire? Comment est-ce qu'on protège aussi les petites entreprises? Parce que là, on est dans un grand air économique.
Oui. Ah oui, puis là, Christine Fréchette, tantôt conférence de presse, je l'ai entendu dire également, « Hey, voyons, la CAQ, on a bougé. » On taxe les logements vacants. Une autre taxe. Fait que là, quand tu vas vendre ton immeuble, tu vas être taxé, mais pendant que ton immeuble sera un logement vacant, t'es taxé pour ton logement vacant.
Puis tu payes pour le logement vacant parce qu'il n'y a personne dedans.
Exactement.
Ça ne fonctionne pas.
Ça ne fonctionne pas.
On ne veut pas ruiner ceux qui sont en affaires. On ne veut pas ceux qui ont un certain... qui ont une partie du parc immobilier. Il ne faut pas que ça devienne ça.
Ben non, exactement. Puis les gens, souvent, s'ils ont un logement vacant, c'est parce qu'ils l'ont mis au prix du marché actuel dans le secteur.
Ben oui.
Donc, c'est pour ça que j'aime bien mieux encourager, moi, ces entrepreneurs-là, mettre quelqu'un dedans avec une aide gouvernementale. Puis on n'aura pas à construire des H&M, on n'aura pas à construire des immeubles.
Puis on peut voir
plutôt
aussi
que taxer.
Ben oui. Puis on peut voir à quel montant, quel ratio on va aider le gouvernement et ses entrepreneurs-là. T'sais, on n'est pas obligé de tout donner, mais est-ce qu'on peut faire en sorte d'alléger le fardeau économique pour tout le monde puis s'assurer que tout le monde soit logé? Moi, je pense que oui. Je comprends aussi la crainte, parce qu'hier, je jasais après notre émission à une couple de personnes.
Ouais, vas-y donc.
Je comprends aussi la crainte, puis elle est totalement légitime, là, OK? Mais quand... Là, on va y aller avec quelque chose là, de droit au but, puis de clair, Jeff.
Mm-hmm.
Dans les logements qui sont moins chers, qui sont pas au goût du jour, qui sont peut-être dans des secteurs de la ville plus complexes. Ben oui, t'en as. T'en as de la santé mentale.
Ben oui.
T'en as des gens qui ont de la misère avec la propreté, avec l'hygiène, avec se prendre en main.
C'est clair.
Puis c'est pas tout le monde qui veut se ramasser avec ce genre de problématique humaine-là dans leur logement quand il est tout propre, tout moderne, tout rénové, parce que ça peut être la bisbille, ça peut être vraiment compliqué puis tu peux perdre beaucoup d'argent.
C'est sûr.
Puis on respecte ça. Fait que je comprendrais aussi que tu as certains entrepreneurs qui se disent « Moi, je veux pas que ce soit n'importe qui dans mon logement.
Mm-hmm.
Je veux que tant qu'à ça, qu'il soit vacant puis je vais le mettre plus cher pour ça. »
Oui.
Par contre, il y a beaucoup de gens aussi qui sont en train de construire des unités de logement que ça leur a coûté les yeux de la tête avec l'explosion des prix des matériaux depuis la pandémie.
Ben oui, et les nouvelles normes en construction.
Les nouvelles normes en construction qui se disent « Ben moi, si je le mets pas à ce prix-là, mon logement, ben je perds de l'argent, puis finalement,
c'est
je paye pour loger du monde. »
En plein ça, puis on a un excellent texto qui est rentré en disant « Hey, un logement vacant, c'est déductible d'impôts, puis parfois, c'est plus rentable qu'avoir un locataire, justement, à plus bas prix. » C'est intéressant.
C'est ça qu'on doit vérifier?
Ben c'est ça. Puis comment qu'on peut aider, justement. Et de toute façon, tu sais, les fameux HLM, la façon que ça fonctionne aussi, c'est qu'il va y avoir des spécialistes, justement, tu sais, des organismes sont attitrés avec des spécialistes pour aider, justement, ces gens-là à sortir de la pauvreté.
Ouais.
Ben si on en met dans des immeubles locatifs, il n'y a rien qui empêche ce spécialiste-là de partir pour faire sa run de lait et aller voir ces gens-là.
Faire les vérifications, justement, d'accord avec toi. Combien d'argent on va gagner, même, s'il y a un employé qui, temps plein, est payé pour ça, ou deux,
exactement.
Trois, puis mettez-en 10.
Il faut penser en dehors de la fameuse boîte de « Ah, les gens à faible revenu, on y met tout à la même place. » Non.
Et ils sont tous des tout croches.
Oui, c'est
ça. Aussi, parce que là, on parlait de santé mentale, on parlait d'hygiène. Il y a des gens qui n'ont pas eu les outils que certains ont eu dans la vie pour prendre soin d'eux, pour entretenir les
choses. On n'est pas tous égaux. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, jeudi, on va recevoir Mylène Moisan, chroniqueuse au Soleil. Trois excellents articles dans les derniers jours sur trois enfants délaissés par la DPJ. on n'est pas tous égaux.
Pas du tout. Tu sais, moi, je sais cuisiner parce qu'on m'a obligé pendant une partie de ma vie
ben oui.
à assister à ce qui se passait dans la cuisine.
En plein ça.
Puis heureusement, j'ai aimé ça. J'ai détesté, par contre, faire l'entretien paysager. Mais ben j'ai oui. adoré cuisiner.
Ben oui.
Puis j'aime me débrouiller parce qu'on m'a montré ça. Mais
exactement.
Ça vient de mes parents, tu sais.
Ben, c'est
ça. Il y en a qui n'ont pas ces outils-là. Tout ça pour dire qu'en ce moment aussi, dans les HLM puis les demandes qui sont faites, il y a des gens, puis je reviens à l'histoire d'hier qu'on se contait, puis je vais reporter cette personne-là pour les gens qui n'étaient pas là, comme une femme qui a travaillé au gouvernement toute sa vie,
mm-hmm.
qui a été fonctionnaire, qui est allée topper l'échelon qu'elle pouvait gagner à la fin de sa carrière, qui est tombée à la retraite, qui a son régime de rente et tout ça, fonds de pension, et qui n'est pas capable de se payer un logement au prix actuel dans la ville de Québec, même si elle s'en va dans un 3,5 tout ça, sans se serrer énormément
exactement.
La ceinture.
C'est fou.
Souvent, il n'y a rien de compris dans les logements qui sont offerts en ce moment. Puis cette personne-là vit pas sur le seuil de la pauvreté, mais très près. Fait que s'il arrive quoi que ce soit, une réparation d'auto, quoi mm-hmm. que ce soit, ça va être très, très difficile parce qu'elle est séparée actuellement. Puis ça, combien de personnes ont essayé d'être candidat au HLM
ouais.
dans cette situation-là? Puis moi, je regarde les années à venir là, avec la population vieillissante, avec le salaire qui n'augmentera pas, avec les gens qui vont tomber à la retraite, qui n'aura pas un sou de plus, mais que tout le reste va
ben
augmenter
oui.
quand même. Comment on va s'en sortir?
Ah non, ça va être très, très, très difficile avec le vieillissement de la population. Parce que, tu sais, tant mieux, mais c'est une faible proportion de la population, je suis certain. Puis allez-y au 418-971-1021. Qui sont capables d'économiser comme ils veulent pour leur retraite.
Oui.
Moi, je l'avoue très candidement, je ne suis pas capable à l'heure actuelle.
Oui.
Une chance, j'ai travaillé 10 ans dans le public au RTC puis que ça me fait un bon fond de
oui.
départ. Mais sans ça, écoute, je ne suis pas capable.
Mais c'est difficile avec des enfants maintenant.
Ben
c'est
oui.
Puis on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Là. Personne n'est parfait. Là.
Oh, non,
on,
non.
Des fois, on va aller se gâter pour notre état émotionnel
ouais,
dans
non,
quelque
non,
chose.
Non,
puis on
moi,
pu
là,
mettre de côté, puis...
ma blonde est comptable. Là, puis j'y ai dit dernièrement, hey, je compte pas bien mes scènes.
On s'assoit.
On s'assoit. Gère-moi.
Mais félicitations. Parce que ça aussi, ça prend une ouverture à ta vulnérabilité. C'est
non,
pas
en effet,
facile.
Ben non, c'est pas facile. Puis... parce que là, tu te dis, ouais, crime. Puis là, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, ah, écoute... les restos avec mes chums de gars, faut que je coupe ça, faut que je coupe telle affaire.
T'es pas un extravagant.
Je suis pas un extravagant là-dedans.
T'es pas un extravagant. Tu sais, tu donnes quoi à tes enfants,
mm-hmm.
puis t'es quelqu'un qui va mettre de côté pour justement
bon,
les vacances.
J'espère que mon employeur m'entend, non, c'est pas vrai.
Mais je m'en vais, là, demande non mon salaire.
C'est ça, exactement.
On fait des. On niaise, mais c'est quand même quelque chose d'important, je pense. Puis les gens commencent à se confier au 88-971-1021, faites-le.
Mm-hmm.
C'est quoi votre défi économique? On revient souvent, puis. Tu sais, je l'ai plaidé plus souvent qu'autrement, à 14 ans, là, au micro, Jeff, dans la ville de Québec, mais l'enfance, là, puis l'éducation, puis tout part de là, le financier, là, on n'a pas tant appris ça.
Non, ah non, on n'a pas ça à l'école.
Puis au Québec, on avait la culture, puis c'est correct, là, les pays d'en haut, là, on était là-dedans, mais garde tes scènes, puis là, quand t'as 10 piastres, là, tu
mm-hmm.
peux dépenser ton 10 piastres, puis... mais c'est avec de l'argent que tu fais de l'argent.
Ben oui.
Puis quand t'apprends jeune à en mettre de côté... versus ta première job, c'est chez tes parents, puis tu commences à dépenser, puis tout ça, parce que tu dis, mon Dieu, c'est le fun d'avoir
c'est
de l'argent.
Sûr.
Mais que personne t'en parle. Comment est-ce que tu veux
ben oui.
prendre conscience de...
En effet.
Tu sais, il y a des riches en ce moment, puis les riches est rendu relatif,
ouais, ouais.
on s'entend.
Ben, les riches, c'est mes enfants qui vivent chez papa et maman, puis qui travaillent beaucoup l'été.
Bon,
eux autres, quand je regarde leur compte en banque, là, sont riches.
Mais
ouais, ils m'entendent pas.
Il y a quelque chose qui m'a été dit dernièrement par une personne qui jeune s'est faite.
Okay? Ouais, ouais.
Bon, elle a été brillante et tout ça, puis elle s'en est fait parler assez jeune. Mais elle dit, moi, à partir du moment où que j'ai réalisé que mon but dans la vie, c'était de me défaire des impôts que je paie au gouvernement. Et attention, là,
mm-hmm.
il paie ses impôts, OK? Par contre, toutes les exemptions fiscales, tous les crédits d'impôts,
ouais, ouais.
tout l'argent qu'il peut mettre t'es dans un
capable
compte
d'aller chercher.
CELI ou dans un CELIAC maintenant, ou de... il est allé se renseigner. Puis il s'est rendu compte que c'est comme ça qu'il a été capable de faire de l'argent.
Mm-hmm.
En allant chercher tous les crédits d'impôt qu'il ne savait pas qu'ils existaient.
Ça, c'est vrai.
Très jeune, très rapidement, mais il y a une cagnotte qu'il n'a jamais pu penser
mm-hmm.
qui était
puis là, il est en mesure.
Ouais.
Merci de réagir par texto. À 39 ans, je me vois travailler jusqu'à mon dernier souffle. Écoute, moi aussi, pour de vrai, je dis toujours qu'à la retraite, de la façon malheureusement que j'ai pas réussi à économiser assez... je vais avoir un petit sideline. Tu sais, moi, je vais être le petit monsieur au Rona
ouais,
qui va parler à tout le monde.
Mais tu vas aimer ça. Le
puis je vais aimer
que,
ça. Je vais avoir... non, mais je vais avoir besoin de ça. Anyway.
T'es chanceux pour ça. C'est comme Yannick
Mansour. Je vais être celui au comptoir d'un club de golf. Comment ça va, matin? Hey, on est chanceux, il fait bon, ouais!
Ils vont être contents de t'avoir. La seule affaire, c'est ça. C'est aussi la fiscalité pour les personnes à la retraite.
Oui.
Faut la revoir. Faut la revoir au
Mais
Québec.
Non, exactement. Oh, texto très intéressant qui entre. J'ai 4 enfants avec des problèmes de santé. J'ai aucun sou de côté parce que la médication coûte trop cher. Maman a travaillé toute sa vie pour finir dans une coopérative avec une subvention. Sinon, elle n'aurait pas un sou. Ben, Nathalie, on est avec toi, ma chum. Puis bravo, 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 bravo pour ce que tu fais pour tes enfants.
Mais c'est super souffrant.
Ben oui.
Sa situation est souffrante. Parce qu'elle est là, elle est là pour ses enfants, puis je suis certaine qu'elle veut rien faire d'autre. Mais elle a les mains liées.
Oui, exactement. Elle est super beau texto encore. Je travaillais col bleu 40 heures semaine. J'ai dû retourner sur les camions à faire 60-70 heures semaine pour continuer à faire mes paiements et être capable d'économiser. Ma blonde est préposée aux bénéficiaires. Les fins de mois sont dures. Hey, imagine-toi, 2 personnes qui travaillent à temps plein. Préposée aux bénéficiaires, on en cherche. Camionneurs, on en a besoin. Puis les fins de mois sont
c'est
dures.
Difficile.
Puis certains font pas de dépenses folles, là.
Puis je l'écoutais, en fait, parce que tu le lisais, ce texto-là. Je me disais, on dit tout le temps qu'on est à l'ère où on peut choisir ce qu'on fait dans la vie. Je veux dire, une affaire, c'est pas vrai.
Mais non, c'est pas vrai.
C'est pas vrai pour la majorité des gens. Puis c'est là où je me dis, l'éducation financière, là, aurait été et devrait être encore principale.
Mm-hmm.
Parce que des fois, tu vas être chercher une... Je vais pas me prononcer, mais... Je veux pas me prononcer parce que je n'ai pas de diplôme dans ça. Marc-Antoine Reed, là, qui fait de la chronique, qui est pas fou conseiller financier. Mais il y a tellement d'affaires qu'on s'est pas fait dire jeune parce qu'on avait l'impression qu'il fallait piler notre argent pour ensuite s'acheter quelque chose.
En effet.
Il y a des riches qui vont s'acheter une voiture de... Je pense à Luc Poirier, là. Lui, il s'achète une voiture, il s'est endetté sur des trucs, mais sa voiture qu'il a choisie, qu'il a achetée, n'a pas perdu de valeur. Mais des fois, dans nos choix... Il y a peut-être quelque chose à aller voir derrière. Puis là, je donne l'exemple le plus stupide là, de la voiture parce que la majorité, tu l'achètes, tu sors de la cour, tu viens de t'endetter.
Ah, c'est fini.
Elle vient de perdre la valeur.
C'est ça.
Mais jeune,
c'est pour ça que l'accès à la propriété doit être renforcé, selon moi, parce que quand tu achètes une maison, c'est un investissement.
Tu es dans le trou.
Oui. T'sais, moi, je le dis.
Mais c'est à toi.
C'est ça. Je veux que la maison, on va l'avoir... Fini de payer quand je vais aux alentours de 60-62 ans. Fait que je me dis, tu sais, j'ai une partie de ma retraite qui est là.
Puis ça veut dire que toi, tu vas déménager un jour.
Oui,
parce que
ça,
tu vas vouloir l'argent de ta maison.
C'est clair.
Mais ça, c'est des choses des fois que les gens n'ont pas pensé ou vont pas penser parce qu'ils vont dire, hey, c'est tellement un gros achat, je peux pas me permettre ça. Va falloir j'attendre des années à piler mon argent. Non, les conseillers financiers sont là pour indiquer beaucoup de choses sur comment gérer cet argent-là.
Vraiment.
Tu n'avais pas la valeur de la maison complète dans ton portefeuille.
Non. Je continue avec vos textos parce qu'ils sont très bons. Merci d'interagir autant. 418-971-1021. J'ai toujours eu 2 jobs aux études. C'est Pierre-Luc qui nous écrit ça pour placer de l'argent. Habitude que j'ai continué en espérant partir en Floride à 57 ans. Hey, ça aussi, c'était le rêve de mon père, la Floride!
C'est le rêve d'une génération!
C'est ça. Puis c'est ça que Pierre-Luc dit, comme les boomers avant moi. Mais honnêtement, je pense pas y arriver, même en plaçant. Donc, tu vois, dans ces situations-là, le coût de la vie a tellement augmenté que c'est difficile. Pierre-Luc, je te salue en passant, puis c'était bien cute. Pierre-Luc, c'est mon ancien voisin. Quand j'étais dans le jumelé avec la mère des enfants. Puis je suis allé porter de quoi samedi matin? Puis je l'ai vu sortir avec sa fille, puis sa blonde, puis il s'en allait faire du vélo de montagne. Mais sa fille, elle doit avoir 5-6 ans, les petits gars.
Ah, c'est cute!
C'est
ça.
Cute, les saines habitudes de vie. J'adore. Good job, Pierre-Luc.
Oui, vraiment. Hey, je vais terminer. Je pense que là, vous pouvez continuer d'écrire au 88.
Ah oui, vraiment.
On va vous lire, puis on reviendra peut-être là-dessus, parce que ça fait tellement réagir. Mais tu sais, une personne de 70 ans qui écrit, Jeff... Allô, vous avez tellement raison. Je vis pas au seuil de la pauvreté, mais je dois faire attention pour pas y être. Pas de loyer en haut de 1000 $ et j'ai travaillé toute ma vie. Je vis dans une coop depuis 25 ans et même là, les loyers sont super dispendieux.
Non, c'est ça. C'est vraiment un combat de tous les instants, le coût de la vie et l'habitation. Puis on va justement en parler avec Catherine Gentilcard du Parti québécois. Elle est porte-parole en matière d'habitation et d'accès à la propriété. Madame Gentilcard, merci d'être disponible pour l'émission d'Angers.
Merci pour votre invitation.
Fait plaisir. Madame Gentilcard, on a écouté le dernier jour du côté de la CAQ, proposition, on fait plus de logements sociaux, on fait plus de HLM. Du côté de QS, bien, on taxe tout simplement à 100% des revenus les gens qui vendent leur propriété de 4, 5, 6 portes. Bon, j'entends votre rire. On a eu le même rire, nous aussi. Le PQ se positionne au niveau de l'habitation?
Bien évidemment qu'on a martelé là, à plusieurs reprises dans les dernières années, puis particulièrement dans les derniers mois, qu'il faut évidemment agir sur l'offre. Mais agir sur l'offre, comment on fait pour faire ça? En ce moment, on a un code du bâtiment qui, à notre avis, n'est pas à jour. La CAQ avait proposé une réforme du code du bâtiment, mais qui était pas du tout, qui ne correspondait pas du tout aux besoins, dans le fond, de l'industrie. Ça rajoutait, en fait, des barrières à nos entrepreneurs plutôt que d'en enlever, alors que nous, on est vraiment dans l'optique d'enlever le plus de barrières possible pour faciliter le fait de monter des chantiers puis de mettre en branle des chantiers pour la construction. Fait que ça, c'est une chose, une part. Pour revenir sur la proposition de Québec solidaire, écoutez, ma boîte courriel explose depuis hier de la part de petits propriétaires. Je veux dire, c'est un enjeu qui est réel, là, des petits propriétaires qui ont, je sais pas, 5, 7, 8 portes et qui se démènent et qui font eux-mêmes les rénovations chez eux, puis qui vraiment ils consacrent leur soir, leur fin de semaine pour assurer leur retraite, par exemple, pour avoir un revenu d'appoint éventuellement. Donc, je pense pas que la solution passe par éloigner ces petits propriétaires-là de la propriété. Ça passe par construire plus de logements, évidemment, prendre soin du parc immobilier qui est là en ce moment. Vous parlez de logements sociaux. Ça fait depuis les années 90 qu'on n'a pas construit de nouveaux HLM, puis qu'on ne prend pas soin de ceux qui sont là. Il faut prendre soin de notre parc immobilier, puis il faut enlever de la paperasse, de la bureaucratie, puis des entraves administratives pour permettre aux constructeurs de construire plus rapidement. Pour nous, c'est vraiment par là que ça passe.
Ah, c'est complètement capoté, nos HLM, comment sont désuets. Moi, je vais livrer des paniers de banque alimentaire plusieurs fois par année. Puis quand je rentre dans un HLM, je me dis l'estime de soi ne peut pas être là pour les gens qui sont à l'intérieur. Dans votre proposition, justement, au niveau du code du bâtiment pour venir diminuer les coûts, en habitation, vous le voyez comment, le PQ? Est-ce qu'on voit, tu sais, en quelle proportion c'est le privé qui construit des logements versus le gouvernement?
Il faut que ça fonctionne, tout simplement. Il y a des initiatives qui ont été mises en place. D'abord, on a des OBNL qui sont très connaissantes, qui sont très compétentes pour monter du logement. On a vu, entre autres, Util, qui est un OBNL qui monte des logements, qui réussit à construire beaucoup de logements pour les étudiants. Entre autres, c'est un modèle qui fonctionne. Nous, on pense qu'il faut aller vers ça. Il faut aussi qu'il y ait une consolidation de ces OBNL-là. Moi, ce que je remarque sur le terrain, c'est que beaucoup de petites OBNL qui n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu, qu'on essaie de faire, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de les mettre ensemble, qu'ils deviennent de plus gros joueurs pour avoir une meilleure capacité de construction. Il y a aussi des partenariats privés et publics, en fait, comme Unité, le fameux projet Unité qui permet de construire des résidences abordables pour les personnes âgées. Je sais que vous en avez parlé hier avec la ministre, mais c'est un vrai enjeu, hein. Les personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie, qui ont mis des sous de côté et qui se retrouvent parce qu'ils perdent un conjoint, parce qu'ils se retrouvent tout seuls, souvent, à ne pas être en mesure de se payer un loyer décent, un logement décent. Ben, le projet Unité permet à ces personnes-là, justement, d'avoir un logement. Donc, ça va vraiment être de voir quelles sont les initiatives qui fonctionnent le mieux et de miser là-dessus et de faire en sorte qu'il y en ait plus et qu'on construise plus de logements à travers ces initiatives.
Oui, j'aime beaucoup votre idée de regrouper des organismes à but non lucratif ensemble pour créer des plus gros joueurs. Honnêtement, je vois là une belle alternative pour justement garder ce parc-là adéquat, le parc de logements plus sociaux. Au niveau du supplément pour le loyer, le PQ se situe à quel endroit? Parce que moi, je regarde, bon, je sais que là, le chiffre de 100 000 là, logements libres là, qui a été annoncé par Radio-Canada ce matin, faut le prendre avec des bémols parce que exact. Des fois, il y a des deuxièmes lieux d'habitation qui sont là. C'est prêt avec les statistiques d'Hydro-Québec. Mais n'empêche que dans les statistiques ici, dans la région de Québec, on regarde les logements au niveau des nouvelles constructions de condos locatifs. Il y a un 5 % qui est libre. Est-ce que vous voyez là également une belle piste de solution pour renvoyer des gens dans ces logements-là qui sont libres avec le supplément au logement?
On est en crise, il faut agir sur tous les fronts. Donc, toutes les opportunités qu'on a de donner du logement qui soit abordable aux gens qui en ont besoin, il faut les prendre. Donc, ça, c'est d'une part, mais aussi, je veux juste rappeler qu'on est les seuls à parler. Oui, il faut jouer sur l'offre, mais il faut jouer sur la demande aussi. Et on a été parmi les premiers à le dire que là, le régime d'immigration massive imposé par le gouvernement fédéral dans les dernières années nous a pris à la gorge, nous prend à la gorge et contribue largement à cette crise du logement-là. Et là, on le voit, là, il commence à avoir des articles qui sortent là-dessus, vous voyez bien. On a commencé à agir sur l'immigration et on voit que le taux d'inoccupation commence à augmenter un petit peu. Donc ça, c'est une preuve que oui, il faut agir sur l'offre, bien évidemment, mais il faut aussi continuer d'agir sur la demande. Donc ça, je voulais juste le ramener parce que c'est important aussi dans le portrait global de la chose. Mais sinon, agir sur l'offre, bien évidemment, en ce moment, on n'arrive pas à construire parce qu'il y a trop d'embûches, il y a trop de mesures administratives qui nous empêchent d'aller de l'avant quand on a un code du bâtiment qui n'est pas adéquat par rapport à nos besoins, par rapport à notre réalité. Ça peut en décourager plusieurs, ça décourage carrément des entrepreneurs d'aller de l'avant avec des projets. Pour certains, c'est compliqué aussi d'ajouter du logement abordable dans leurs projets privés. Ça, faut faciliter ça, je pense, parce que j'en rencontre tous les jours sur le terrain, moi, à Terrebonne, dans ma circonscription, des entrepreneurs qui ont ça en tête et qui ont cette sensibilité-là de dire il faut construire aussi du logement abordable dans la tour que je m'en vais construire de logement global. Il faut être en mesure d'écouter ces gens-là, de voir comment on peut faciliter le volet administratif pour que ces logements-là puissent pousser le plus rapidement possible. Donc, c'est vraiment c'est une vision qui est 360 où on agit évidemment sur l'offre, on agit surtout sur les règles de construction. Vous avez peut-être vu, on s'en était parlé en fait il y a quelques mois de ça. Mm-hmm. On avait sorti un plan pour réduire les coûts de construction, notamment pour les infrastructures, mais c'est bon aussi pour le logement chez les gens, là. Donc, il faut agir là-dessus également, avoir plus de concurrence au niveau de nos compagnies de construction, notamment s'assurer d'avoir une vitalité à ce niveau-là, puis faire en sorte qu'on puisse construire plus rapidement, dans les meilleurs coûts aussi, les meilleurs frais possibles.
Je veux pas être provocante, mais est-ce que le défi nous dépasse déjà? Est-ce qu'on est en train de perdre contre plus grand que nous, là? Est-ce qu'on a créé, à travers le temps, un défi qu'on peut plus maîtriser? Parce que on vous entend, vous, puis on entend bien d'autres mondes, mais on dirait que c'est le défi le plus grand de l'histoire là, en termes de logement en ce moment, puis qu'il y a tellement d'axes qu'on n'y arrivera pas dans 5 ans ni dans 10 ans.
C'est un très grand défi, vous avez raison, mais moi, je ne perds pas espoir. Je vois des joueurs sur le terrain qui sont vraiment dédiés et dévoués à améliorer la situation. Je pense que, comme bien des choses au Québec actuellement, on est rendu les pros de se mettre des bâtons dans les roues puis d'avoir des mesures administratives incroyables qui font en sorte qu'on n'arrive pas à mettre des projets en branle. Je pense que ça prend une volonté politique forte, évidemment, pour abaisser certaines de ces barrières-là puis faciliter ces projets-là. Moi, j'y crois, je pense qu'on peut le faire, mais ça prend beaucoup de volonté politique pour rassembler les joueurs ensemble et s'assurer que ça y aille rapidement. Je veux dire, quand on prend la CAQ qui a aboli Accès Logis, qui est un programme qui n'était pas parfait, mais qui fonctionnait plutôt bien, pour le remplacer par le FAQ qui a réussi à lever aucun logement. Je veux dire, des fois, faut pas juste jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut garder certaines choses qui sont bonnes, qui sont en place. C'est ce qu'un gouvernement responsable à l'automne devra faire, puis c'est ce qu'un gouvernement du Parti québécois fera. Donc, évidemment que ce ne sera pas simple, ce ne sera pas magique, là. Il n'y a pas de licorne ici. Là-dedans, c'est un enjeu qui est grave, qui est important et qui perdure dans le temps. Maintenant, ça va prendre beaucoup de volonté politique puis le désir de justement reconnaître les meilleures initiatives puis les encourager.
Pour rappel, on parle avec Catherine Gentilcar, porte-parole du Parti québécois en matière d'habitation et d'accès à la propriété. Madame Gentilcar, est-ce qu'au Québec, on a trop peur de l'entreprise privée? Moi, c'est ce que je vois puis c'est ce que je sens dans ce que vous me dites depuis tantôt. On ne fait pas confiance à cet entrepreneur-là que si on diminue les normes de construction, si on diminue à paperasse, il va être capable de livrer des logements à 1 300 $ au lieu de 2 000.
Mais c'est justement là, c'est là où il faut pouvoir avoir confiance en ces joueurs-là, je pense. Après ça, ça prend des normes, ça prend toujours des normes, ça prend une certaine réduction de comptes. Il faut surtout s'assurer de la sécurité de nos concitoyennes et concitoyens, ça c'est la base. Mais après ça, ce qu'on voit, c'est une accumulation, de normes à travers les décennies, à travers le temps, qui fait en sorte que maintenant, c'est très difficile d'avancer. Donc, ça demande un sérieux travail, puis ça demande beaucoup de rigueur puis beaucoup de persévérance pour passer à travers toutes ces normes-là puis dire lesquelles sont bonnes.
C'est tellement décourageant, t'sais, autant pour le petit propriétaire d'un 4, 5, 6 portes que l'entrepreneur qui va lever sans logement, là.
Exactement. Donc, il faut les aider dans ce sens-là. Puis moi, je pense qu'avec de la volonté politique, du courage, puis on se redresse les manches, mais il faut que quelqu'un fasse le ménage là-dedans à un moment donné. On n'a pas le choix. Puis je pense que ce sera le grand défi du prochain gouvernement. Puis nous autres, c'est le défi qu'on veut relever, assurément. Ouais. On n'a pas le choix.
Si vous voulez mon vote, il va falloir vous en parler dans la campagne électorale encore et encore. Hey, blague et à part, je profite du fait que vous êtes porte-parole en économie aussi. La CEUM, la date limite du 1er juillet, il y a une délégation du Canada présentement qui est aux États-Unis. Vous vous attendez à quoi?
C'est une bonne question. Écoutez, je ne me suis pas penchée là-dessus, mais c'est sûr et certain que là, les attentes sont quand même élevées. Moi, je peux vous dire qu'en tout cas, au niveau culturel d'emblée, parce que c'est un dossier qui m'intéresse particulièrement, juste rappeler qu'il n'y a pas de Québécois autour de la table, donc personne pour défendre le fait français autour de la table par rapport à la CIUM à ce niveau-là. Donc, évidemment que j'ai hâte de voir comment le Québec tirera son épingle du jeu à l'issue de ces négociations-là. On va suivre ça de près, assurément.
Et justement, vous avez parlé de la culture. Tiens, je vais profiter du rebond pour vous parler des artistes, les textes de Québécois ce week-end. Les artistes qui parlaient de leurs difficultés financières. Si le Parti québécois est élu, est-ce qu'on va se tourner plus vers une assurance-emploi spéciale comme on voit présentement dans les Pays-Bas ou on va plus justement travailler avec les artistes pour qu'ils puissent, s'ils sont pas capables de vivre de leur art, être capables là, de manier leur art et un autre emploi?
Alors, c'est un dossier qui me touche particulièrement et qui, en ce moment, pour lequel on réfléchit très ardemment. Il y a toutes sortes d'idées. Nous, on a eu un comité, on a eu la chance de mettre en place un comité culture au Parti québécois qui a travaillé sur toutes sortes de scénarios en ce sens-là. On est en train de les évaluer. Une chose est certaine, c'est sûr et certain que vous connaissez mon inquiétude pour l'avenir culturel linguistique du Québec dans le Canada. Pour moi, la solution passe entre autres par notre affranchissement puis par l'indépendance du Québec. Mais outre ça, pour avoir une nation forte, ça prend des artistes qui sont forts, qui peuvent créer et qui peuvent partager et faire rayonner notre langue partout. Oui, au Québec, s'assurer qu'on puisse consommer de la culture en français au Québec, mais aussi la faire rayonner bien au-delà. Donc, on est en train de regarder tout ça. Je ne vais pas faire d'annonce ce matin, évidemment, mais on regarde tout ça avec beaucoup d'attention puis on va revenir avec un plan clair.
Qu'est-ce qui vous... Je vais le dire de façon à peu près vulgaire. Qu'est-ce qui vous fend le plus? Les syndicats en construction ou encore l'administration gouvernementale quand vous voulez changer les choses?
Qu'est-ce qui vous quoi le plus? J'ai pas compris.
Qui vous fend, qui vous dérange, qui est plus compliqué.
Ben en fait, il y a rien de simple hein, en politique.
Non, mais entre les deux, là.
Ben je n'ai pas à choisir. Il n'y a pas un ou l'autre. Puis il y a des situations où il y a un, il y a des situations où il y a l'autre. Je pense que c'est toujours de vouloir concilier les deux puis de vouloir faire le mieux dans tous les dossiers. C'est ça qui est la richesse d'être en politique, c'est d'avoir la chance de parler avec des gens qui sont extrêmement connaissants dans leurs dossiers, qui ont leur point de vue et qui tiennent à leurs acquis. Puis après ça, de faire évoluer chacun des joueurs dans un sens où le Québec va en sortir meilleur. Là, c'est jamais simple, c'est toujours complexe, mais je peux vous jurer que c'est toujours riche, puis qu'on en sort tout le temps avec des nouvelles idées puis avec des nouvelles opportunités. Moi, je reste une optimiste. Il faut être optimiste, je pense. Je crois aux Québécois, je crois au Québec. Je pense qu'on est mûr pour un sacré ménage, par contre, puis que le prochain gouvernement devrait avoir beaucoup de courage. Donc faut se retrousser les manches, puis je peux vous jurer que nous, on a un été qui n'est pas... foisonnant de vacances, c'est un été où on travaille, où on bâtit notre plateforme puis on se prépare à avoir les meilleures propositions là, pour l'automne. Puis je trouve ça extrêmement, je trouve que c'est un privilège immense.
Est-ce que le PQ aurait le courage justement de venir jouer dans les normes? Bien, on a parlé des normes en construction, mais dans les normes syndicales avec la CCQ, avec FTQ Construction pour faire en sorte que les coûts de main-d'œuvre diminuent également?
Écoutez, j'ai réfléchi beaucoup à ça depuis notre dernière entrevue ensemble parce que vous m'aviez posé la question quand j'ai arrivé avec le plan sur la réduction des coûts en construction. J'ai essayé de trouver de la donnée empirique là, qui montrerait que en fait les syndicats ont un impact direct sur les coûts en construction. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment plus au niveau des normes puis au niveau de ce qu'on pourrait faire pour faciliter la voie puis faciliter certaines façons de faire auprès de nos entrepreneurs. Donc, nous, on aura le courage de se pencher sur tout ce qui est un problème. Ça, c'est parfait. Pas un problème de notre côté. Nous allons le faire. Mais pour l'instant, dans ce qui nous concerne, quand on parle de la construction, moi, c'est pas ce que je vois qui est vraiment les points de contact les plus irritants en ce moment. C'est vraiment au niveau des normes, c'est là qu'on veut se pencher.
Catherine Jolcé-Lecard, porte-parole en habitation en accès à la propriété pour le Parti québécois. Merci beaucoup pour votre temps ce midi. On se reparle prochainement.
Merci à vous autres.
Merci, bonne semaine. Catherine Gentil-Cœur du Parti québécois. Vous avez été plusieurs à réagir par texto. Ouais. Je trouve que c'est un bon plan, le PQ, mais on délaisse une partie du problème, c'est-à-dire la partie des coûts de la main-d'œuvre, de de ce monopole syndical-là, de justement, sur le fait que tu peux pas être un menuisier sur le chantier en même temps que tu vas transporter des madriers.
Oui. Puis ça revient normalement par texto. Là.
Oui.
Des gens qui travaillent dans l'industrie qui nous en parlent. C'est drôle, mais j'ai l'impression qu'elle dit certaines paroles en l'air avec des menuisiers à 100 $ de l'heure, les syndicats qui drivent le show. On rêve tous de voir construire des logements à prix abordable, mais il est déjà trop tard. Mm-hmm. C'est pour ça que je posais la question, est-ce que défi, es-tu rendu plus grand que nous? Là? On a-tu laissé aller des choses? On aurait-tu été capable de mettre un petit peu plus de menottes au syndicat à travers le temps? Puis je sais que ça fait réagir quand tu dis ça, mais que veux-tu?
Il y en a qui
ont pris trop de considération. Il y a des gens qui ont réussi à prendre trop de place dans l'industrie, puis j'ai vraiment l'impression que, malheureusement, pour plusieurs syndicats, la ligne, là, la seule et unique, puis c'est normal, parce que ça a été créé pour défendre le travailleur, OK?
Oui.
Mais ils ne sont pas capables de sortir du chemin. Il n'y a pas de gros bon sens, des fois.
Non, en effet, tu as entièrement raison.
Ils ne pensent pas à la suite des choses.
Il y a deux choses, présentement, que moi, je vois que les coûts de construction au Québec sont plus élevés qu'ailleurs. Là, puis ça, c'est prouvé. Là. Au Québec, voire même au Canada. Justement, cette partie syndicale-là où la main-d'œuvre coûte énormément cher. Et l'autre partie, c'est les normes en construction. Puis ça, William Trudel nous l'avait même expliqué. Là, quand il faut maintenant que ton bâtiment soit justement régi 75% plus fort qu'avant pour les tremblements de terre, quand il n'y a pas un bâtiment qui s'effondre au Québec avec un tremblement de terre. Ça, c'est des coûts additionnels en matériaux. Quand il faut que ton immeuble au complet soit accessible pour les personnes à mobilité réduite, tu n'as pas le droit, exemple, sur 10 étages, de dire, ben moi, il y en a 4 qui vont être accessibles, mobilité réduite, 6 qui vont être standard, ben ça augmente les coûts. Alors, toutes ces normes-là mises ensemble, une par-dessus l'autre, ça augmente les coûts. Donc, j'aime beaucoup entendre que le PQ veut s'attaquer à ça. Moi, j'adore ça. Mais on va manquer une partie du... On va le régler à moitié, le problème.
Le côté syndical, ça commence à nous handicaper dans tellement de ministères.
Vraiment.
Puis je rêve... Est-ce que je rêve en couleur? Je rêve d'un syndicat qui va dire, « Hey, on se rend compte qu'un, on ne travaille pas assez ensemble. Ouais. » Le gouvernement est capable aussi, là, pas de travailler avec le syndicat.
Non, exactement.
Mais... qui va dire, c'est vrai qu'on est en train de tuer la profession au final. Parce que si on continue de faire dans cette même façon-là, qui est assez exubérante au niveau des coûts puis qui ne permet pas d'évoluer le secteur de la construction au Québec, qu'est-ce qui va arriver?
Bien, c'est ça.
Puis, il va en avoir de moins en moins, en moins de travail.
C'est parce que ce qui arrive, c'est le cercle vicieux qu'on est en train de vivre. Moi, je le vois, c'est que, compte tenu que le coût de la vie augmente, parce que les coûts de construction augmentent, parce que les coûts de transport augmentent, parce que tout ça augmente, bien là, le syndicat, il se présente au gouvernement puis il dit « ça me prend les augmentations salariales ».
Oui, mais c'est pourquoi qu'il y en a moins.
Fait que là, c'est ça. Fait que là, le gouvernement délivre les augmentations salariales parce que le coût de la vie a augmenté. Mais la main-d'œuvre fait augmenter aussi le coût de la vie, surtout dans le domaine de la construction. Donc, tu sais, c'est comme un cercle vicieux. Comme si on réglait un problème pour en créer un autre.
Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont être en poste pendant 10 ans quelque part puis ils vont militer pour leur point. Hein? C'est comme des fois les policiers qui veulent avoir quelque chose qui reste après leur passage. La vision globale, puis nos grands bâtisseurs là, des années X, Y, Z, là, avant, là, qui voyaient quelque chose puis qui disaient, bon, ce sera ça les répercussions dans 20 ans, ça dans 30 ans, ça dans 40 ans, puis qui n'allaient plus être au pouvoir ou qui n'allaient plus être les gestionnaires d'une entreprise et ou d'un syndicat, sont où?
Ouais,
pourquoi est-ce que maintenant on pense juste à nous?
Bien, malheureusement, le politicien maintenant pense à sa réélection. Donc, c'est ça le problème. C'est le fameux 4 ans où je vais être réélu après ce 4 ans-là. Puis malheureusement, moi, je perçois que les contre-pouvoirs, qui font bien d'exister, là, en passant, les médias, on est un contre-pouvoir, mais le contre-pouvoir syndical a trop la main mise à l'heure actuelle sur le Québec, parce que c'est quoi? C'est plus d'un employé sur deux qui travaille pour l'État. Donc, veut pas, ça vient avoir une main mise extrême là-dessus. Merci de continuer à nous écrire au 418-971-1021. Vous le savez, vous êtes en déplacement. Notre application est gratuite. Boulevard 101, disponible sur App Store et Google Play Store. On fait une courte pause. On revient en manchette avec vous. Et Charles Milliard, le chef du Parti libéral du Québec, va être en entrevue aux alentours de 12h45. Charles Milliard, aujourd'hui, a fait un plaidoyer pour la Capitale-Nationale. Il veut pas juste un débat des chefs en Capitale-Nationale. Il veut que le débat contienne un segment particulier sur l'avenir de notre capitale nationale. Un sujet qui, selon lui, doit être au cœur de la prochaine campagne électorale. Elle tombe bonne dans la capitale nationale. On va y parler. Qu'est-ce qu'il veut pour notre capitale? C'est quoi ses priorités? On fait quoi avec la capitale nationale? Est-ce que Charles Milliard aura les bonnes réponses? C'est à suivre dans quelques instants.
Jusqu'à 14.
Émission d'En jase avec Jeff Fortin et Pascal CV pour les deux prochaines semaines. Par la suite, pendant mes trois semaines de vacances, ça va être Pascal CV avec Mathias Turcotte. Même dans un mix, on en jase point max de 11h à 2h. Et de retour le 3, où Pascal va être avec moi et Alex Laramée le matin, parce que Marceau va être en vacances. Et moi, je serai avec Mathias Turcotte. C'est ça la programmation de On en jase pour la période estivale. Écoutez-nous via la web radio blvd.fm, l'application BLVD 102.1, ou avec votre haut-parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD ». Pascal, as-tu vu ça? Comment on a l'air fou avec notre joyau des capitales de Québec?
Oui et non, dans le sens où on le sait.
Hey, on est la risée du circuit.
Mais ça, par contre, je m'en attendais pas.
Ça n'a pas de sens. Écoute, les capitales de Québec, c'est les quatre fois champions de la Ligue Frontière, OK?
Oui.
C'est une fiche de 30 victoires et 13 revers depuis le début de l'année. Ils sont à l'étranger ce soir face aux Bombers de Schaumburg.
Face à qui?
Bombers de Schaumburg. c'est la meilleure équipe de la Ligue Frontière. Mais là, quand les équipes viennent au Stade Canac, ils se demandent s'ils vont être capables de finir le match parce que l'éclairage qui avait fait défaut l'an passé, changé par la Ville de Québec, où il y avait eu de l'infiltration d'eau. Ben là, on a eu bien beau, les capitales ont eu bien beau dire « Hey, on va changer toutes les lumières! » Puis la Ville a dit « Oui, parfois, on les change toutes, ça n'arrivera plus. » Ben, samedi soir, en plein match contre New York, les lumières ont fermé dans le champ droit.
Ça, je comprends pas avec le nouveau stade, je comprends pas avec
non,
tout ce
plus
qu'on...
de lumière. Fait que les capitales de Québec, une organisation de classe A1, qui est la meilleure équipe de la Ligue Frontière depuis 4 ans, les champions, le modèle d'organisation dans la Ligue Frontière, font rire d'eux par tous les autres organisations parce que la Ville de Québec n'est pas foutue de changer une lumière. On a-tu l'air cave?
Puis est-ce qu'on a le droit de le faire? Parce que des fois, c'est aussi au niveau syndical, on n'a pas le droit.
Ben, c'est ça. Fait que là,
fait que ça... le problème? Parce que moi, je vais aller la changer, la lumière.
Ben, non, mais c'est ça le problème aussi. Parce que là, samedi soir, quand c'est arrivé, tu comprendras que là, les capitales ont été obligés de négocier avec l'équipe de New York pour dire « Ouais, écoute, on est en 8e manche. On sait qu'il va faire plus noir dans le champ droit. C'est pas fiable pour la sécurité des joueurs. Mais on peut-tu finir la game? » Puis là, les gars de New York ont dit « C'est bon, on finit la game. » Les gars de New York étaient en avance. Fait qu'ils voulaient gagner le match, puis ils l'ont gagné. Mais là, les capitales ont dit « Hey, là, pardonne-moi mon expression, mais on dit hey, fuck off là. On va faire venir l'électricien, nous autres. On va le faire monter dans le poteau, puis il va régler ça. Non, 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 non. Touche pas à ça, c'est ta ville. Fait que là, il y a quelqu'un de la ville qui est venu. Puis là,
et
les
qui ont dû rire de nous, par exemple.
Ben oui, puis là, les capitales ont dit ben, c'est quoi le problème, tu sais? Fait que le gars de la ville, hein, il sait pas c'est quoi le problème, il va falloir que j'investigue davantage. Fait qu'on est là. Il est trop tôt pour un diagnostic clair. Hey, boutillage, la lumière a fermé samedi, on est rendu mardi. C'est ça, l'administration de la Ville de Québec.
J'ai
ça
pas
prend
grand...
soin
ça
parle... de nos...
Dire. Ça, dit la... ça dit tout.
Ben
par...
oui, ça la prend situation. Soin de nos joyaux de cette façon-là. Épouvantable. Complètement, complètement, complètement épouvantable ce qui se passe. On salue Charles Demers, le président des Capitales de Québec, Patrick Scalabrini, le coach, toute l'équipe, l'administration qui nous rend fiers à chaque été. Hey, imagine, c'était sale comble samedi, 4257 spectateurs, puis la lumière a fermé en 8e manche.
Mettons que t'es maire de Québec, là.
Ben, mettons que t'es maire de Québec, moi, je m'attendrais à ce que le maire dise au capital, hey, c'est beau, je le règle, le problème. Mais non, j'ai pas vu ça dans les médias, là. Pas vu le maire prendre soin de nos capitales.
Un genre de, hey, c'est épouvantable. Vous auriez dû nous le dire avant, on est là, là.
C'est ça.
Mais ça, on aurait dû le savoir avant, ça devrait même pas s'y rendre.
Ben non, surtout que c'est un problème depuis l'année passée.
Moi, je pense que je serais tellement contrevenante, là, je serais allée changer la lumière.
Ah, moi, tu dis? Pense que
j'aurais eu un grief, là.
J'aurais défait le poteau complet, puis je n'aurais remonté un autre.
Je serais allée dans les médias avec mon grief.
Ben, j'espère donc. En disant, regardez, je peux même pas changer de lumière quand je suis la meilleure équipe de la Ligue Frontière. J'en reviens pas.
Je sais pas si... Admettons que c'est un des joueurs de l'équipe là, qui était en visite, là, qui le fait.
Ouais.
Ou un des coachs. Est-ce qu'ils peuvent avoir un grief? Ils peuvent-ils se faire arrêter? Ou on avait une zone si grise, là, tellement complexe qu'on aurait pu leur demander?
Je pense qu'on aurait pu le faire. Il y a un texto qui est rentré. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Ouais, c'est ça que le maire nous aurait dit. C'est même trop vrai. Hey, c'est la quatrième fois, Hugo, qui nous écrit, c'est la quatrième fois qu'il change les luminaires depuis l'an passé.
Bon, ben, il y a peut-être quelque chose à
ouais,
voir là.
Je pense qu'il y aurait quelque chose à voir là. Hey, Pascal, avant de parler avec Charles Milliard, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Oui, bien, il y a une femme qui a été arrêtée pour des menaces de mort envers le service de police de la Ville de Québec. Donc, elle a 49 ans, puis elle avait proféré des menaces menaces à l'endroit des policiers sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors, les policiers veulent montrer que même derrière le clavier, et si ça semble anodin, là, des menaces de mort, ce sont des menaces et on a tolère pas ça. C'est l'incitation à la violence. C'est inacceptable. Donc, on est allé l'arrêter. Elle a été arrêtée un peu avant 3 heures ce matin dans le secteur du Vieux-Québec et elle devrait comparaître aujourd'hui au Palais de justice de Québec. La province compterait près de 100 000 logements vacants. On vient de faire un bon tour, là, en fait, à l'aube du 1er juillet de tous ces ménages québécois-là qui pourraient se retrouver sans logement. Nouvelle analyse de Radio-Canada qui a révélé les 100 000 logements qui seraient inoccupés dans la province. On fait un comparatif avec le fait que c'est le nombre de gens qui habitent Sherbrooke. Fait qu'on prendrait tout Sherbrooke, là, puis c'est toute cette masse de gens-là au Québec qui n'a pas de logement. C'est quand même assez criant comme image, là. Ou encore, c'est 4 fois plus que ceux qui vivent à Victoriaville, là. Alors, c'est pas rien. La Société canadienne d'hypothèques de logement, le taux d'inoccupation à Victoriaville, là, c'est de 0 % depuis 2023 parce que c'est impossible, finalement, d'y trouver un appartement. Fait qu'on voit que c'est dérisoire un peu comme situation parce que c'est du cas par cas. On a plein de données différentes selon les municipalités puis les villes. Puis au total, ben c'est des 100 000 logements vacants à travers la province. Vous allez pouvoir reprendre notre entrevue. On a tenté un peu de faire un éclaircissement avec certains groupes politiques là, depuis.
Oui, c'est sur le BLVD.fm, autant avec la ministre de l'Habitation hier, Karine Boivin-Roy, qu'avec Catherine Gentil-Écart du PQ aujourd'hui.
Le maire de Québec, Bruno Marchand, s'est prononcé sur quelque chose ce matin. Il l'a fait sur quelque chose de très sérieux, par exemple.
Vas-y donc.
C'est sur la mort de cet enfant-là du côté de
Beauport. Ah oui, nos sympathies à la famille.
Atroce.
Ah!
Atroce comme
vivre
nouvelle.
Ça.
C'est un jeune de 11 ans qui était à vélo, qui a perdu la vie. Il a été heurté par une voiture hier à Beauport. Donc, on a appelé le 911. On était autour de 15 heures. Collision qui a impliqué un véhicule puis un jeune cycliste. C'était à l'intersection de l'avenue des Sablonnières puis du boulevard Raymond. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce matin, très tôt, je voyais des gens qui avaient fait un peu leur journaliste... de village, dire comme ça, puis qui allait prendre des vidéos à cette intersection-là, de gens qui passaient encore sa lumière rouge, puis qui n'avaient comme pas de sensibilisation.
Intersection très dangereuse.
Exact. Donc, les policiers ont procédé à l'arrestation d'une dame de 76 ans pour accident délit de fuite, parce que elle avait quitté les lieux. Là. Décès de l'enfant qui a été confirmé en début de soirée, mais le maire qui a utilisé sa page Instagram pour dire que c'est un drame innommable, bouleversant. Il a quand même exprimé là, ses condoléances aux parents puis déplore le nombre élevé d'accidents de la route survenus au cours des derniers jours. Une tragédie qui nous ébranle tous. Là.
Vraiment. Puis, il faut faire attention, soyez attentifs quand vous conduisez. Puis, il va falloir régler quelques points chauds en sécurité routière à Beauport, boulevard Raymond, boulevard des Chutes, où il y a eu un enfant également qui a été frappé. Ses parents sont venus en entrevue dans Marceau le matin. Donc, il y a beaucoup d'endroits où ça circule trop rapidement à Beauport, à proximité des écoles d'organismes communautaires. Alors, il va falloir nécessairement régler le tout. J'espère que la ville va se mettre en action.
Puis, restez là à l'émission. Un peu plus tard, on parle d'une poursuite d'$1 million. Jeff, il y a un embryon congelé qui aurait été utilisé à l'insu du père par son ex-conjointe.
Ah oui, hey, ça va être intéressant ça. Merci de nous parler de ça.
Le midi.
Notre belle capitale nationale, Pascal, on l'aime. On veut qu'elle se porte bien. Moi, je suis natif de Québec. Je travaille à Québec. J'ai élevé ma famille à Québec. Puis je veux mourir à Québec parce que c'est ma ville. Et je l'aime, même si des fois, j'aime ça me retrouver dans le bois. Et...
Bon, on dirait que tu préfères le nouveau slogan du Bloc québécois. Tu sais, la chanson « Le Québec, c'est nous ».
C'est vrai.
À...
Oui, mais là, moi, c'est la ville.
OK.
Moi, j'ai un fort attachement
c'est ça,
à la ville.
Tu pourrais le faire pour la ville de Québec.
T'as raison.
Peut-être pour un parti provincial.
Oui, je pourrais être dans les campagnes de pub. Oui, ça me ferait un revenu additionnel.
Non, tu pourrais pas faire les deux, ça, en tout cas, je te le déconseille.
Je le sais très bien. Mais il y a une personne, justement, qui a écrit et qui veut parler de son amour pour Québec, et c'est le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, qui est en onde avec nous. Monsieur Milliard, merci beaucoup de participer à l'émission dans Jazz.
Oui, bonjour à vous deux, ça me fait plaisir.
Bonjour. Monsieur Milliard, vous avez demandé non seulement un débat à Québec, mais vous voulez que le débat qui se déroulerait à Québec contienne un segment particulier sur l'avenir de notre capitale nationale. Qu'est-ce que vous entendez par avenir de notre capitale nationale?
Bien, premièrement, je veux mentionner que ça fait longtemps que je pense qu'il devrait y avoir un débat à Québec de façon générale. Puis en plus, cette année, on en a 3 au lieu de 2. Alors moi, je salue... l'initiative d'Éric Duhaime, là, et je me suis rapidement rallié à sa sortie publique il y a quelques semaines. Mais là, en plus, je me dis, ben, si on a 3 débats, ça veut dire qu'on a encore plus de segments de discussion. Il y a deux débats qui sont même un jour et le lendemain. Alors, pourquoi qu'on n'aurait pas des thématiques un peu différentes? Et la capitale nationale, vous parlez de votre amour de Québec. Moi, je suis originaire de Lévis, comme vous le savez, mais c'est la capitale de tous les Québécois. Alors, je pense que ça devrait intéresser le sujet. Puis d'ailleurs, on sait que tous les Québécois s'intéressent à bien des sujets qui se passent à Québec, n'est-ce pas?
Le troisième lien, ça intéresse la province en entier,
En tout cas, j'en entends parler partout, ça c'est certain. Donc, je pense que ça serait une belle fleur à faire aux gens de Québec ou de la capitale de leur dire, écoutez, c'est quoi les ambitions du futur premier ministre, le premier ministre sur la capitale nationale?
Vous, c'est quoi vos ambitions pour la capitale nationale? Parce que vous vous présentez quand même pour être premier ministre, c'est intéressant de le savoir.
Oui, bien, la première chose, c'est d'avoir des candidats de grande qualité qui sont enracinés dans Québec. Donc, vous avez vu un certain nombre des annonces que j'ai faites récemment avec Farnel Morisset, Alain Chandonnet, Julie White, Charles Hudon. Alors, on va continuer de faire ces annonces-là, mais moi, je veux que ça se devienne la vraie capitale politique, diplomatique, de gouvernance de l'État québécois. Alors, je pense que dans les 8 dernières années, la CAQ a manqué quelques coches là, sur cette réalité-là. Puis je vais vouloir aussi qu'on parle du développement économique de Québec, de l'accès au logement et de l'itinérance. On sait qu'on a un maire à Québec qui est très, très vocal sur la question de l'itinérance. Alors moi, j'ai rencontré, entre autres, Mme Marois il y a quelques semaines, là, suite au groupe qu'elle a formé pour donner mon accord à convoquer un sommet sur l'itinérance. On sait que c'est un enjeu qu'on a de plus en plus à Québec. Alors, tous ces sujets-là, là, pourquoi qu'on ne prendrait pas 10-12 minutes dans le prochain débat pour en parler? Ça serait une excellente idée, selon moi.
Ah, c'est une très bonne idée. Je partage votre opinion. Dites-moi, le développement économique de Québec, c'est la tâche au dossier à l'heure actuelle de Bruno Marchand, maire de Québec. On développe comment l'économie de Québec pour qu'elle redevienne florissante?
Bien, deux choses. Premièrement, on redéroule le tapis rouge à nos PME au Québec. Donc, que ce soit à Québec ou en Chaudière-Appalaches, le tissu économique, c'est des PME. Puis en ce moment, on a plein de jeunes, il y en a peut-être qui nous écoutent ce midi, qui n'ont pas envie de se partir en affaires parce que c'est trop compliqué. Il y a trop de paperasse, il n'y a pas assez de gains à faire. Alors nous, on veut réformer l'État québécois pour avoir davantage de PME. Puis la deuxième chose, ça nous prend une politique industrielle au Québec où on va dire, voilà les secteurs d'activité dans lesquels on veut être bon, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la défense. Puis moi, je pense que Québec va aller chercher... des gains dans l'établissement de cette politique-là. Dans les 8 dernières années, on a fait des grandes annonces, on a coupé bien des rubans, mais on n'a pas fait d'argent au Québec avec les décisions politiques de la CAQ. Alors moi, je veux changer ça, puis il y a une part du gâteau pour Québec là-dedans.
Il y a beaucoup de directions vers la capitale nationale là, chez les partis provinciaux. Ces temps-ci, dernièrement, j'assistais à une semi-conférence avec la Chambre d'industrie de Québec avec Christine Fréchette. Vous parlez de la capitale nationale. On n'a jamais autant parlé de la ville de Québec, on dirait. C'est sûr qu'on est à l'aube d'une élection, mais pourquoi là, c'est crucial?
Bien, parce que chaque élection, c'est une occasion de se rappeler c'est quoi nos priorités. Puis moi, je pense que la capitale nationale, qui est en pleine croissance démographique, qui est en croissance économique aussi, qui a des gros projets, entre autres de transport, je pense que ce qui se passe à Québec en ce moment, regardez le taux de chômage, regardez le niveau d'activité économique, c'est quand même inspirant, puis c'est pas ce qui se passe dans toutes les autres régions du Québec. Alors, comment on peut s'inspirer de la capitale nationale pour inspirer le reste du Québec? Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle qu'on parle de notre capitale dans un moment comme ça. Puis tant mieux si ça intéresse tous les partis. C'est les citoyens de Québec qui vont être gagnants. Donc ça, moi, je suis pas jaloux là, de l'intérêt des autres non plus.
Parlant de transport, un parti libéral du Québec, s'il est élu et que Charles Milliard devient premier ministre, est-ce qu'on fait les phases 2 et 3 du tramway?
Oui, moi, je suis favorable au tramway. Je pense qu'il n'y a pas de projet parfait en ce beau monde. J'ai toujours eu la même ligne là-dessus, sur le troisième lien aussi. Moi, je pense que si on a de l'ambition pour la capitale nationale, il faut que les gens puissent se déplacer plus aisément. Alors, il y a toujours des modifications, puis on peut toujours s'adapter aux nouvelles technologies qu'il va y avoir quand viendra le temps de faire les phases 2, phase 3. Mais globalement, moi, je veux que le monde circule à Québec, parce que c'est comme ça qu'on va générer plus de croissance.
Le troisième lien est payant ou non?
Écoutez, s'il faut que ce soit payant, ce sera payant. Moi, je suis en faveur, d'ailleurs, là, je ne referai pas l'histoire, là, mais j'ai proposé des partenariats publics-privés bien avant que Mme Fréchette s'intéresse au dossier. Là, je vois qu'il y a un appel d'intérêt qui a été lancé. S'il faut que ce soit payant à cause des finances publiques déplorables en ce moment, ben ce sera payant, mais on a besoin à terme d'une boucle de circulation à Québec. Moi, ça fait 2 ans que je dis ça à votre antenne, je n'ai pas changé d'idée.
Québec est en déficit au niveau de ses infrastructures, surtout au niveau de ses infrastructures d'eau. Est-ce qu'on demande aux maires marchands de faire un plan puis d'en repayer une partie à même les taxes municipales ou on dépile les cordons de la bourse, on délie les cordons de la bourse puis on donne tout aux maires marchands?
Bien, je vous dirais que les demandes du maire marchand sont similaires aux demandes du maire Blainé, aux demandes de la mairesse Bibeau à Sherbrooke. Je veux dire, il y a beaucoup de villes qui ont des enjeux d'infrastructure en ce moment. Moi, j'ai été à l'Union des municipalités du Québec il y a 3 semaines pour dire que je voulais que la part du PQI, là, du Plan québécois des infrastructures, qui soit consacrée aux infrastructures municipales, passe de 4 à 8. Là, ça va faire de faire des annonces qui font des belles conférences de presse quand les tuyaux pètent partout au Québec. Donc, on va redonner une priorité à ça. Ça sera aux municipalités de voir si elles veulent aller chercher des nouveaux revenus. Je sais qu'il y a le rapport de Mme Jérôme Forget et M. Marceau là, à l'UMQ qui propose ça. Mais pour l'instant, moi, je veux reprioriser les infrastructures municipales. Il faut réparer le Québec. Ça commence par ça.
Un mot en terminant sur René Verret qui a malheureusement retiré sa candidature dans Louis Hébert. C'est un dur coup pour le Parti libéral?
Ben écoutez, moi je vais être honnête avec vous là, c'est sûr que c'était pas une bonne nouvelle, mais je sais pas si c'est mon côté humain là, mais tu sais, j'ai eu des discussions avec M. Verret, puis je pense que en considérant c'est quoi le travail, je pense qu'il avait peut-être mal évalué ce que c'est le travail de politicien. Ça se passe beaucoup dans le privé, des gens qui arrivent puis qui quittent leur job parce que finalement c'était pas ce qu'ils pensaient. C'est sûr que quand on est sous l'œil public, c'est différent, mais il y a pas d'histoire de coulisses là-dedans, là, je tiens à vous le dire, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas bien mesuré ce que c'est. Alors, j'aime autant mieux avoir quelqu'un d'heureux ailleurs que quelqu'un de malheureux autour de moi. Donc, j'ai décidé de prendre ça positivement, puis j'ai très hâte de vous présenter un prochain candidat dans Louis Hébert.
Vous avez un recrutement quand même flamboyant quand ça commençait, entre autres, avec Farnell, Morissette, tout ça. Avez-vous tué sa carrière si jamais il n'est pas élu?
Ah ben non, pas du tout. Premièrement, il va être élu. Puis deuxièmement, moi, je salue des gens, justement, qui n'avaient pas nécessairement besoin de ça dans la vie, qui décident de mettre leur vie professionnelle sur pause pour la politique. Il y a Charles Hudon aussi qui a quitté un emploi, comme vous le savez, à la SQ. Docteur Cécile Tremblay à Laval. Moi, je suis extrêmement fier de l'équipe et je vais laisser les Québécois juger du reste. Mais Farnell serait un excellent député de Taschereau.
Il y a beaucoup de gens présentement, beaucoup de commentateurs politiques qui vous reprochent d'être un petit peu trop entre deux, toujours sur la zone grise. Est-ce qu'on peut s'attendre à un Charles Milliard plus cassant dans les prochaines semaines?
Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le 5 octobre, les gens vont savoir je suis qui puis c'est quoi que je propose. S'il y a des gens qui veulent du monde qui divise les Québécois, ben Mme Fréchette, M. Plamondon sont très bons là-dedans. Moi, je cherche à...
Attendez, là, vous êtes dans une chicane, là, souverainiste, fédéraliste, là, vous divisez vous aussi?
Ah oui, puis c'est mon projet, c'est la souveraineté du Québec. Moi, je ne fais que répondre au projet des autres. Alors qu'on m'accuse pas de jouer la carte de la peur. C'est pas moi qui propose ce projet-là. Moi, mon projet, il est en santé, en éducation, en économie. Mais je vous rassure que les gens vont me connaître d'ici le 5 octobre. On peut pas être nouveau en politique, puis arriver, puis 100% des Québécois nous connaissent. Là. Donc, moi, c'est mon défi. Chaque politicien a son défi. Moi, je trouve le mien pas mal intéressant.
Ouais. Est-ce que vous allez avoir votre gilet du Canada demain pour la fête du Canada?
Ah, mon Dieu, écoutez, oui, je vais participer. Dans ma circonscription, il y a une parade là qui a eu lieu hier. C'est la 116e année consécutive. Alors, je participe à plusieurs activités dans le comté d'Orford, comme je l'ai fait pour la Saint-Jean la semaine passée.
Monsieur Milliard, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé ce midi. Je sais que vous avez un horaire fort chargé. Pour plaisir de se reparler bientôt.
Ça me fait plaisir. À bientôt.
Merci. Au revoir. Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec. C'est très particulier ce qui se passe avec le Parti libéral dans les capitales nationales. Puis je m'explique. Le recrutement roule tempête, mais quand on regarde sur Québec 125, ils sont quatrième. Ouais. Puis quatrième, vraiment loin. Là, c'est vraiment une course à trois entre la CAQ, le PQ et le Parti conservateur du Québec. C'est pour ça que j'ai posé la question. Allez-vous être plus cassant, plus vivant, je vais le dire comme ça, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui manque à l'heure actuelle au Parti libéral. Quelqu'un en qui les gens vont dire « OK, c'est beau, j'ai confiance, il va nous amener quelque chose de positif pour la Capitale-Nationale ». Les électeurs de la Capitale-Nationale là, sont à prendre. Tu sais, 418-971-1021, là, continuez à interagir par texto, mais... C'est ça qu'on a depuis des semaines. Et mon Dieu, je savais, pensais pas que j'en voterais pour la CAQ, puis là, peut-être on votait pour la CAQ.
Mais il y a de quoi que je comprends pas là-dedans, parce que souvent, on va se dire, ben, là, je me souviens, au Québec, c'est pas super ça. La CAQ a quand même... briser la confiance de plusieurs électeurs en faisant pas ce qu'il avait dit qu'il allait faire.
Vraiment?
En étant très girouette, en étant... Qu'est-ce qui est pire? Ce genre de comportement politique-là qui, mm-hmm. une fois élu, prend beaucoup de place, puis déçoit, etc. Puis, tu sais, il y a eu aussi l'issue de certaines personnes qui pensaient qu'il y avait eu un contrôle pendant la pandémie, tout ça, dans leur politique. Versus le Parti libéral qui, à travers plusieurs années, a trahi, puis il y a des histoires de corruption, puis etc. Puis, tu sais, des affaires pas nettes, nettes, OK? Qu'est-ce qui est pire, on dirait, en ce moment? Parce que si les gens tournent vers la CAQ puis le gouvernement mm-hmm. un peu girouette, parce qu'ils mettent en lumière le passé trouble du Parti libéral au niveau de la confiance, de la corruption et tout ça, ça veut dire que c'est pire le passé du Parti libéral que celui de la CAQ en ce moment?
Que de la girouette.
Parce que Charles Millard...
T'es dans le pire, je te rajouterais, c'est-tu pire d'être souverainiste puis de vouloir un référendum dans le premier mandat? Non, mais c'est vrai.
Parce que, mais tu parles de nettoyer un peu le parti. Tu sais, Charles Millard, là, toujours bien quelqu'un qui n'a jamais été impliqué dans quoi que ce soit à ce jour,
c'est
de ce qu'on sait, au Parti libéral.
C'est sûr.
Lui, il est capable de faire le ménage ouais. sur ce qu'est le parti. Il essaie de recruter des gens, il a mis des gens dehors, il a ramené son équipe, il fait le ménage.
Oui, puis son recrutement n'est pas juste bon dans la capitale nationale. Là. Je regardais l'autre jour, là, il a présenté 3 candidats dans l'Estrie, là, tu sais... Ouais. Un professeur super connu, un ancien maire. Tu sais, c'est vraiment des gens, un journaliste, c'est vraiment des gens reconnus dans leur secteur.
Il va à l'eau de Javel, là, dans le Parti libéral pour faire le ménage.
Son problème, c'est que c'est pas tenu devant son caucus au début, avec l'histoire Marois Risky. Je pense que ça y a collé à la peau. Le caucus des députés anglophones...
Mais c'est tellement politique. Mettons pour un électeur, là... Pas sûr qu'il y en a qui ont su. Tu sais, nous, on est là-dedans chaque jour.
Ouais, je sais, mais on vote pour un chef avant tout. Ouais. Il semble pas être un chef qui a la drive.
Mais moi, je parle plus d'image, mettons, du parti. Ce qui me fascine, c'est que ça colle plus mm-hmm. l'image négative auprès des libéraux pour les électeurs que le passé de girouette de la CAQ. On entend les deux, là.
Ben, la corruption fait beaucoup jaser.
Plus, hein?
Je pense que ça fait plus jaser, t'as raison. Plus jaser que « Hey, j'ai-tu pas un référendum ou non? » Ou...
On va te savoir troisième lien ou non.
Ouais, c'est ça. Ou t'es un peu aussi l'image négative qu'Éric Duhaime peut avoir à l'extérieur de la région de Québec de par le fait qu'il recrute beaucoup de gens qui sont à droite puis qui n'ont pas toujours sur les médias sociaux publié des choses très édifiantes. Ben, ça colle pas ici à Québec. T'sais, fait que la corruption, t'aurais raison. La corruption est vraiment.
C'est vrai que c'est triste de se dire on va faire un top 3 de ce qui a le plus dérangé au
Mais ça revient à la tristesse de la politique à l'heure actuelle.
Oui.
On vote pour le moins pire.
Ouais.
On vote pas pour le meilleur, on vote pour le moins pire. J'ai l'impression que ça va être ça la prochaine élection.
Mais que ça colle comme ça. Je comprendrais plus que ça colle au dos de Christine Fréchette. Le parti de girouette.
C'est vrai que l'air Legault colle moins à Christine Fréchette que l'air corruption Parti libéral.
Et quand, par exemple, un Charles Millard n'était pas du tout chez les libéraux à ce moment-là, puis une Christine Fréchette était là.
Ouais. J'aimais l'hypothèse. Je pense que c'est le fait que la corruption Parti libéral, ça dure depuis longtemps.
Ouais, ouais, que ça serait comme gangréné.
Ouais, c'est ça, que ça serait gangréné, un parti, justement, avec la gangrène.
Hey, mais la capitale nationale, de ce qu'on peut comprendre de cette entrevue-là, puis de plusieurs, Jeff, c'est que c'est une priorité.
Oui.
Pour les partis politiques.
Vraiment. 418-971-101. Puis c'est bien que ça soit une priorité parce qu'on vote pas toujours du même bord. C'est pour ça qu'on devient une priorité. Il faut continuer à être comme ça en capitale nationale. 418-971-101, est-ce que votre choix est fait? Pas besoin de nous dire pour quel parti. Votre choix est-il fait ou non? Êtes-vous un de ces électeurs, justement, qui est à séduire? Parce que vous le savez, à Boulevard 101, on accueille tous les partis politiques. Donc, on veut, justement, que vous puissiez prendre la bonne décision. Pascal, on a ri de la ville de Québec tout à l'heure avec les luminaires.
T'sais? Oui, les luminaires du côté des capitales de Québec.
Du Stade Canac, qu'on fait passer la meilleure organisation de baseball pour une risée dans la Ligue Frontière. Mais là, on va recevoir, après la pause, Audrey-Anne Pouliot. Elle est propriétaire de La Folle Tablée. Elle s'est installée un comptoir à l'Oasis au port de Québec. OK? Premièrement, je vais lui poser la question, pourquoi ça prend 600 000 $ pour faire fonctionner l'Oasis au port de Québec? Là? C'est même bien juste un quai où on a mis un corridor de nage. Là. C'est pas grand-chose. Mais elle a appris, là, son comptoir est là, elle fait des ventes, tout le kit. Hey, sais-tu quoi? On va fermer ça le lundi puis le mardi.
Oui, on ferme ça. Le port de Québec choisit que le site de baignade du bassin Louise, c'est non pour
c'est ça.
Les mardis lundi.
Fait qu'un partenaire commercial du port et de la ville, on le traite comme ça. Quand on dit que Bruno Marchand, des fois, il n'y a pas les priorités à la bonne place, là. On est un autre preuve, ça, je pense. Il va nous dire
mais
est-ce qu'on peut s'en
mêler. Il y a quelque chose derrière ça,
oui.
Je peux pas croire.
Ben, c'est justement. Donc, on va creuser cette histoire-là avec Audrey-Anne Pouliot parce que je lui ai parlé par texto tantôt, puis elle m'a dit « Ah, c'est complexe, il faut absolument que je t'explique ça de vive voix. » Alors, on la reçoit en studio immédiatement après cette courte pause à Boulevard 102.
Jusqu'à 14h, on en jase. 100% parler tout l'été.
Oui, 100% parler tout l'été à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Jeff Fortin, Pascal CV pour vous accompagner dans votre heure du lunch. Pascal, on rencontre des personnes inspirantes des fois. Et moi, les entrepreneurs, c'est toujours des personnes qui m'inspirent. Parce que c'est des gens qui ont dit « Hey, moi, j'ai une idée, puis que, voyons donc, je vais la réaliser. »
Ah, puis souvent, ils se mettent dans le trou pour essayer de la réaliser sans avoir la certitude que ça va fonctionner.
Là,
ils sont courageux.
Ah ouais, puis là, ils grattent jusque dans le fond de la tirelire, puis ils revirent de bord. Pour dire, il reste une dizaine
des fois
que je pourrais.
Ils cognent à la porte de certaines personnes
ouais.
pour être aidés. Tu sais, c'est tellement...
Ah, ouais.
courageux.
Puis là, ils sont convaincus de leur idée, mais les banques disent « Hey non! » C'est-tu quoi, nous autres,
nous,
non?
Non, ben non.
Ils sont convaincus de leur idée, mais le gouvernement leur pitche la paperasse par la tête.
Ah, puis des taxes, puis des impôts.
Pour être sûr d'être découragé. Et là, on va parler avec justement une entrepreneur, une commerçante, Audrey-Anne Pouliot. Mais là, en plus, Audrey-Anne, en plus d'être justement entrepreneur, puis de prendre soin de sa très belle compagnie, la Folle Tablée, établie dans Charlebourg, sur le boulevard Henri Bourassa. Eux autres, ils font des cornets, c'était que...
Ah, ils n'ont plus besoin
café,
vraiment de faire leur nom.
Moi, je travaillais au patron Charlebourg, puis c'était notre petit dada, les employés du patron. Des fois, on dit, ah, on va te faire Folle Tablée. On partait.
À un moment donné,
on
ça a tellement ça. Explosé là,
ben,
que tout le monde en parlait.
Exactement. Mais là, en plus d'être tout ça, Audrey-Anne, ben, figure-toi donc qu'elle a fait son premier triathlon en fin de semaine. Audrey-Anne Pouliot, comment ça va?
Ça va très bien. Merci pour la belle intro.
Ben
vous avez bien résumé mes 11 ans d'entrepreneuriat.
C'était ça tes
c'est
débuts
ça,
aussi,
hein?
Gratter la tirelire, cogner chez du monde, te faire dire non
c'était
par la banque.
Oui, oui, oui. Puis foncer sans trop savoir. Là. Ça, ouais. Vous avez bien résumé.
On a bien résumé. Audrey-Anne, ça m'impressionne des entrepreneurs comme toi, je tenais à te le dire. Et félicitations pour le triathlon. Soit dit en passant, ça aussi, ça m'impressionne.
Merci.
Moi, je
ne
serais pas capable de nager cette distance-là pour aller en triathlon. Ça a bien été?
Ça a très bien été. Ouais. Comme je te disais, j'ai objectif arriver à la ligne d'arrivée avec le sourire. Moi, j'ai eu du plaisir, on a eu du beau temps.
C'était
avec
ça,
ma famille, des amis.
C'était
vraiment.
Pas le temps?
Non, c'était pas le temps. D'avoir
j'adore
du plaisir,
ça.
Je me suis donné à 100% dans ce défi-là, mais vraiment, je voulais avoir du plaisir. Et battre mon
cool.
frère à la nage, je le rappelle.
Excellent. Fait que là, en plus d'être entrepreneur puis d'investir plein de temps là-dedans, d'investir du temps dans l'entraînement pour un triathlon.
Mais je pense que ça, c'est vraiment important. Tu as Louis-François
ben, oui.
Marcotte qui a fait une super série sur Tout.tv dans le temps.
Ouais.
Pis, en pandémie, il aidait des commerçants.
Mm-hmm.
Puis il disait ça, santé mentale, activité physique, encore plus chez les entrepreneurs. Je sais pas si tu te rejoins dans ces propos-là.
Oui, parce que vient un moment où est-ce que tu n'as plus le choix. Et ce mur-là, ben, je l'ai frappé et c'est là où j'ai effectivement décidé de me mettre en priorité, notamment avec le sport, la santé physique, parce que en affaires, on met beaucoup l'entreprise en premier. Puis vient un moment où est-ce que si on continue comme ça, ben, on pète. Donc,
ouais,
il faut à un moment donné prendre soin de soi puis vraiment se mettre le sport mm-hmm. dans notre vie, l'intégrer.
Mm. Audrey-Anne, tu es impliquée en tant que commerçante dans le projet L'Oasis au port de Québec. Et là, aujourd'hui, ça a commencé à fuiter dans les médias à l'effet que le projet Oasis, sans trop que tu le saches, toi qui es une commerçante impliquée dans ce projet-là, on t'a dit « Ouais, sais-tu quoi, le lundi, mardi, il n'y en aura plus. » Ça de même, c'est arrivé. Comment ça s'est passé?
Ça a été très rapide. Moi, premièrement, c'est ma quatrième saison. Ça fait 5 ans que le site L'Oasis du Port de Québec existe. Moi, mon petit comptoir éphémère, La Folle Tablée à l'Oasis, c'est sa quatrième année. Et puis, dès l'ouverture, là, on ouvrait le 19 juin. Tu sais, j'ai pas la date précise, mais comme c'est vraiment dans les débuts, là, en fait, j'ouvre lundi le 22. Et en fait, j'arrive vers mon employé, il est peut-être 3 heures, puis je réalise, hey, on a vendu 20 pièces, qu'est-ce qui se passe? Le bassin n'est pas ouvert. Je jase avec les organisations, le bassin va être fermé les lundis et les mardis. Les subventions ont été coupées quelques jours avant l'ouverture.
Fait qu'on t'avait même pas avisé, toi, t'envoies une employée, puis on t'avise pas que tu feras pas une scène.
Mais dans le discours qu'on vient d'entendre, eux aussi savaient pas le bassin Louise. Ils ont su ça quelques jours avant l'ouverture du bassin Louise.
Alors, ceux qui gèrent le site, c'est Expérience Saint-Laurent. C'est un OBNL. Ils gèrent aussi l'Agora du Port de Québec et la CAL. Et puis, j'ai appris que le contrat a été signé avec la Ville quelques jours avant. Puis, tu sais, là, je parle beaucoup de la Ville parce que c'est un des principaux donateurs des dernières années. Je sais qu'il y a d'autres aussi subventionnaires qui peuvent venir aider. Mais là, c'est que c'est vraiment la Ville qu'on a ciblée. aussi parce que, comme on parle de triathlon et tout ça, là, ben moi, j'ai vu l'effervescence qu'il y avait ce week-end dans le bassin Louise. Super beau spot, 2200 athlètes venus de 12 pays différents. Et puis là, c'est le plein feu sur le bassin Louise. Et puis le lundi matin suivant l'événement, gros soleil, 27 degrés, pas un chat parce qu'on est fermé. Alors je me dis, la ville devrait peut-être réinjecter, regarder les budgets qui ont été mis, en mettre plus, parce que si on regarde dans les dernières années, ils ont donné deux fois plus que ce qui a été donné cette année.
Mais donc, surtout dans le contexte actuel où c'est la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Canada, et souvent les gens vont prendre des vacances là-dedans, parce que côté congé, là, c'est payant, là, il y a des fériés là-dedans. Peut-être qu'on aurait pu s'ajuster là, mais on est-tu capable d'avoir une vision globale puis se dire, c'était-tu rentable les lundis puis les mardis? Auparavant, ça fait 4 ans, toi, t'es
écoute,
là-bas. C'était-tu rentable?
Je te confirme que les personnes qui se sont présentées hier, qu'on a dû revirer de bord, là, la personne qui était sur le site, là, Tom, qui revirait les gens, là, les gens ne sont pas contents. C'est un site qu'on travaille fort pour attirer les clients depuis 5 ans. Et puis là, cette année, on leur dit, ben non, en fait, le lundi et le mardi, tu viendras pas te baigner. Donc, c'était quand même des journées, mais c'est vraiment une question de budget global que là, tu dis, ben il faut que je ferme 2 journées.
Mm-hmm. Fait qu'on perd, c'est ces journées-là qui sont coupées. On perd plus d'argent actuellement à ce que ce soit fermé le lundi et mardi que si on fermait le lundi et mardi que toi, tu n'avais pas d'emploi, par exemple, à l'Oasis et tout ça?
Oui, puis, tu sais, comme là, en fait, c'est que c'est tellement nouveau que là, j'ai ouvert. Là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens de rester ouvert. Je peux pas être en déficit comme
ben
ça autant.
Ben non, exactement.
Je ferme. Là, il y a des clients aussi qui sont pas contents. Là, on fait du bruit sur les réseaux. Hier, en fait, je me suis dit, ça, c'est impossible. La saison dure du 19 juin au 30 août. Il fait beau, il fait chaud, c'est
ben
maintenant.
Oui.
Tu sais, comme par hasard, ça a été ces journées-là, les lundis puis les mardis, qui fait le plus beau puis le plus soleil.
C'est ça, là, je fais juste prendre hier puis aujourd'hui. Là, on s'en va dans une canicule, tu sais.
Ben,
donc, ça n'est rien comprendre.
Garde,
là. C'est ça. Grosso modo, là, l'Oasis, là, c'est mm-hmm. quoi? Il y a un sauveteur qui est là pour checker le bassin?
Je crois, si je ne m'abuse, qu'on a besoin d'au moins 5 sauveteurs.
OK.
Je pense qu'une journée coûte un petit peu plus que 2 000 $ par jour pour les sauveteurs.
Okay.
Pour être ouvert le bassin, c'est régulièrement, là, normalement, mm-hmm. c'est de 11h à 19h. Donc, c'est sûr que ça a des coûts d'opération.
Oui.
Tu sais, le staff, le bar, les activités, parce qu'il y a des activités qui sont spéciales à tous les soirs. On a des soirées quiz, apéros et bricoles, de la danse salsa, bachata, country. Il y a des activités à tous les soirs vraiment pour les gens et c'est gratuit. C'est le bassin gratuit.
Ouais.
Le site est gratuit. Il y a un chapiteau avec un bar. Il y a la folle table à l'Oasis qui est là, qui sert des beaux cornets magnifiques, des bakies qui sont des beignes cookies incroyables, sandwich, salade, tu sais, c'est vraiment un super
de. Puis là, il y a du tourisme, tu sais, je veux dire, on est dans un milieu touristique,
totalement.
On est en plein centre-ville.
Exactement.
C'est un site qui est incontournable, là.
C'est triste parce qu'effectivement, là, les touristes se promènent, voient un site qui est mort, qui est fermé, avec mm-hmm. des panneaux fermés sur les...
Alors que ces touristes-là, je suis certain, quand ils ont consulté quoi faire à Québec, bien justement, on parle du bassin Louise qui est ouvert 7 jours sur 7.
Pas mal certaine aussi.
Toi, comment ça fonctionne? Bon, t'es là pour une 4e année, j'imagine. À l'hiver, t'as toujours des discussions, puis là, on te parle pas que c'est fermé cet hiver, le lundi, mardi.
En fait, moi, là, c'est vraiment seulement pour la saison estivale.
Oui, mais je veux dire, quand tu as des discussions pour la saison estivale, préparer la prochaine, on t'a jamais informé de ça?
Non, ça n'a pas été discuté.
Mais ils ne semblaient pas savoir, c'est ça. Tout le monde était un peu pris par surprise.
Je pense que tout le monde était un peu pris par surprise.
Là, ce qu'on comprend, c'est que c'est laissé de côté, puis finalement, ça va être ça, au lieu d'être dans le solutionnaire. Puis c'est ça que tu décris?
C'est vraiment. Ben, en fait, c'est ça le texte que j'ai écrit sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. C'est ce que j'ai demandé, c'est quelles sont nos solutions?
Au lieu d'arrêter tout, puis de se dire, OK, vous n'avez plus les subventions, là, vous coupez lundi, mardi. Puis que ça arrête là, est-ce qu'on peut penser aux solutions?
Mm-hmm.
Point d'interrogation.
Ouais. Oui. Puis là, il y a eu la ville qui a commenté quand même, comme quoi qu'eux, ils disent qu'ils ont donné 100% de la subvention qui a été demandée, qui était de 50 000, si les chiffres sont mm-hmm. publics et tout ça. Mais c'est que les années passées, c'était le double. Et donc.
Les années passées, ils donnaient 100 000. Donc, la ville a coupé 50 000.
Donc, c'est ça. Et donc, on peut comprendre que sur un OBNL, ça a un impact.
C'est clair.
Et si les autres, en plus, parce qu'ils se sont virés de bord, mm-hmm. bref, si personne d'autre embarque, et là, moi, c'est pour ça que je focus sur la ville, c'est regarder ce qui se passe après le beau triathlon qui fait briller la ville.
Ben oui.
Voici le site mort. Donc là, j'ai envie qu'on fasse bouger les choses, donc que les discussions s'ouvrent pour amener des solutions potentielles.
Y a-t-il des entrepreneurs qui pourraient joindre, au pire, commanditer le bassin Louise pour la somme manquante cet été?
Je suis pas mal
sûr
que oui. Pourquoi pas?
Est-ce que ces approches-là ont été faites? C'est ça la grande question que tu poses. Parce que t'as pas de retour de la ville présentement qui t'explique pourquoi on a coupé la subvention de 50 000.
Non, et c'est pas non plus ma position. Donc mm-hmm. vraiment, c'est Espace Saint-Laurent qui est en discussion avec la ville. T'sais, moi, je reste une commerçante qui est impactée par ces décisions et coupures de budget-là, qui adore. Personnellement, moi, je nage dans le fleuve. J'adore nager dans le fleuve. J'habite pas très loin. Je suis très heureuse de voir le port animé comme ça. C'est un très beau site qui fait vivre le quartier. Donc, j'ai envie que... Voilà, je sais
vous
pas
êtes-vous
si boulevard 102.1 a un petit tiroir.
Vous êtes-vous regroupé, les commerçants dans le coin, pour parler de la situation puis essayer d'être... Parce que, admettons qu'il manque 20 000, qu'il manque 30 000, j'irais même jusqu'à 50 000. Pour nous, derrière le micro, c'est beaucoup. Mais pour une entreprise et la visibilité qu'elle pourrait avoir, entendre ça aujourd'hui là, à la radio, ça peut être un revirement de situation pour la saison estivale, puis de se dire « j'embarque à côté là-dedans ». Par contre, mon cerveau va aussi à toute l'administration, des fois municipale. Est-ce que ça va être trop long à piloter, puis on va être capable de se revirer sur un 10 cents? Est-ce que, jasez-vous, regroupez-vous?
C'est tellement une belle chose que tu viens de dire là. Moi, j'ose espérer qu'il y a peut-être effectivement des gens qui pourraient se manifester, des entreprises qui pourraient dire « moi, j'investis effectivement pour me faire de la publicité, pour appuyer ce projet-là qui me tient à cœur ou quoi que ce soit. » Ne sait-on jamais, en fait. Mais il n'y a pas eu de regroupement parce que là, en fait, tout le monde est comme, on est dans les ouvertures, fait que c'est toujours très intense dans les débuts. Donc là, c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé d'ouvrir la discussion, de voir qu'est-ce qu'on peut aller, qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, qu'est-ce que...
Oui, quand on parlait de contre-pouvoir, les médias font partie du contre-pouvoir. Ouais. Mm-hmm. Tu as bien fait de frapper à notre porte. Ça nous fait plaisir, justement, de te donner ce micro-là. Je sais que ton souhait, c'est de réouvrir les lundis et mardis. Ça, c'est clair. Tu as besoin de réponses aussi à savoir pourquoi c'est fermé. Est-ce que là, avec présentement là, le passage médiatique que tu as fait, je sais que TVA, Journal de Québec, ici, est-ce que tu as au moins quelqu'un de la ville qui communique avec toi? Est-ce que tu as au moins un retour?
Je parlais avec quelqu'un du cabinet du maire hier, puis tout le monde est en train un peu de fouiller dans les dossiers pour voir.
Parfait.
Donc, tu sais, je suis pas au courant des discussions, mais je sais que ça l'a fait brasser énormément et qu'il y a beaucoup de mouvements qui se passent. C'est ça, a shaké la fourmilière, comme on dit.
Bien, ça, c'est parfait. Fait qu'Audrey-Anne, on va se donner un petit mandat, les deux ensemble. Tiens-moi au courant du développement.
Avec plaisir.
Et on te ramène au micro de Boulevard 101 avec plaisir à l'émission d'Angers.
Merci.
Félicitations encore pour ton triathlon.
Yes.
Yes. Merci, Audrey-Anne. Salut.
On en jase.
Merci.
La ville de Québec. Hein, Pascal? Des abribus à 1 million. Du déneigement de pistes cyclables à 1 million.
Mais c'est sûr que ça m'intéresserait de savoir pourquoi on est passé d'une subvention de 100 000 à 50 000.
Exactement.
Puis on l'a mis dans quoi? En même temps, je comprends si les budgets étaient faits ainsi. Ouais. Si la subvention est tombée deux jours avant, par exemple, c'est là où je comprends moins.
On nous propose le 50 000 est parti dans les capteurs de bruit à 70 000 dans le Vieux-Québec. Très grosse utilité. 418-971-1021. Vous pensez que ce 50 000-là, il est parti où?
Oui, on manque de galanterie économique assurément dans le dossier.
On n'avertit personne. C'est ça qui me fait capoter.
Ben...
C'est qu'on n'a pas la décence d'avertir les gens pour la dernière minute.
Ouais,
c'est là, Audrey-Anne, c'est une commerçante full dynamique, full Québec. Tu sais, je veux faire rayonner ma ville. Puis on n'a même pas la décence de l'aviser.
C'est arrivé quelque chose.
Ce fameux Bruno Marchand-là de s'il y a des commerçants qui ferment, là, il y en a d'autres qui vont rouvrir. Là.
Non, ça me dérange. On
le sent dans ses actions. C'est ça qui me dérange.
Il s'est peut-être passé quelque chose. Je veux juste laisser ça sur la table.
Ouais.
Mais sérieux, s'il y a une entreprise qui se dit « moi, je vais le mettre le 50 000 », qui est refusé ou quoi que ce soit. Je comprends, là, si c'est Pornhub qui arrive, là, je comprends que tu le refuses au passant, Louise, OK? C'est pas très convivial et familial. Cependant, si les mesures administratives sont trop lourdes pour permettre cette subvention-là ou ce montant-là qui serait mis par une entreprise pour faire rouler les lundis et les mardis contre cette publicité-là, je décroche.
Ah, mais...
Mais je te dis, un entrepreneur que cet argent-là, dans son budget marketing, va faire un coup de fou.
Un coup de génie, parce qu'il y a énormément de gens et ça va lui rapporter. Parlant d'économie, Pascal, on est en plein renouvellement de l'ACEUM. Ça se déroule présentement à Washington. La date butoir du 1er juillet approche à grands pas parce que c'est demain. Et on a Renaud Brossard, vice-président communication pour l'Institut économique de Montréal, qui est avec nous. Renaud, comment vas-tu?
Ça va super bien. Comment ça va, vous autres?
Hey, ça va super bien. Renaud, ABC de l'ACEUM et de ses dates. Là, on arrive au 1er juillet. Y arrive quoi? Si personne parle, ça continue?
Ça continue. Donc, essentiellement, la date butoir du 1er juillet, c'est dans ce nouvel accord de libre-échange qu'on a depuis 2020, là. Ce qui est le 1er juillet 2026, c'est une date butoir pour que le Canada, le Mexique et les États-Unis disent on veut continuer avec cet accord-là. S'il y en a un des trois qui dit qu'il ne veut pas continuer ou qui dit rien, là, on rentre dans une période sur 10 ans où il va y avoir une négociation à chaque année pour essayer de renouveler l'accord sur une période de 10 ans. Puis si après 10 ans, on n'y parvient pas, là, c'est une autre paire de manches. Là, il va falloir voir est-ce qu'on a encore un accord de libre-échange. C'est sûr que, bon, c'est moins pire que l'apocalypse qu'on voyait venir initialement. Là, au moins, c'est une période de 10 ans pour s'adapter. Par contre, une entreprise vient investir au Canada, puis qu'elle se dit, écoutez, je vais faire ma production au Canada, je vais pouvoir vendre au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ben, elle ne vient pas investir pour une période de 1 an. Elle vient investir pour une période de long terme. Donc, c'est un gros impact sur l'investissement, c'est un gros impact sur ceux qui veulent venir faire affaire ici, parce qu'ils savent pas est-ce que dans 10 ans, ils vont encore avoir accès au marché américain.
Ouais, en effet, c'est cette incertitude-là qui est créée, qui fait très mal présentement au Canada et au Québec. Dis-moi, Renaud, présentement, tout ce qui est sous l'Océum est protégé de tarifs douaniers additionnels de Donald Trump. Par contre, au Québec, je regarde, bon, l'aluminium, c'est pas là-dedans. L'acier, c'est pas là-dedans. Le bois d'œuvre non plus. Est-ce qu'on est plus frappé au Québec à l'heure actuelle que dans le reste du Canada?
Absolument. On est plus frappé que plusieurs autres provinces, puis ça, les données le démontrent. Juste avec, puis justement, comme vous mentionniez, là, il y a question de l'aluminium, du bois d'œuvre, de l'acier. Il y a aussi tout ce qui est au niveau de l'automobile en Ontario, qui est quand même assez touché aussi. Mais c'est ça qui nous affecte le plus, c'est ce qu'on appelle les tarifs sectoriels. Donc ça, c'est quand Trump disait, écoutez, je vais mettre un 50% sur l'aluminium étranger. Ben ça nous affecte. Parce que ça, c'est pas couvert par la CIUM. Par contre, il faut quand même voir une chose. Un tarif douanier, là, je veux dire, le président Trump a beau essayer de le présenter comme étant quelque chose qui est payé par les producteurs étrangers. La théorie économique est très claire. C'est une taxe. C'est une taxe à la consommation. C'est les consommateurs locaux qui le payent. En très, très large partie. Donc, d'abord, c'est l'importateur qui le paye, qui va ensuite revendre son produit plus cher au distributeur, qui va ensuite le revendre plus cher aux détaillants, puis qui va le revendre plus cher aux consommateurs en bout de ligne. C'est quelque chose qui a eu un effet justement sur l'inflation aux États-Unis dans les derniers mois. Ben, comme il y a beaucoup de produits qui autrefois n'étaient pas tarifés, ensuite qui ont eu, dans certains cas, des tarifs, dans d'autres cas, des ajustements au niveau de la chaîne d'approvisionnement, ben, ça a un effet sur les prix. Faut voir aussi que beaucoup de ces produits-là, les États-Unis ne peuvent pas les remplacer demain matin. Tu sais, je prends l'aluminium, par exemple. On produit énormément d'aluminium au Québec. Les États-Unis importent 3,2 millions de tonnes d'aluminium du Canada à chaque année. Les États-Unis en produisent 750 000 tonnes. Fait que c'est sûr que demain matin, je veux dire, est-ce qu'ils peuvent augmenter leur production de 50 000 tonnes peut-être, là? Mais ils ne peuvent pas remplacer cet apport-là du Canada rapidement. Ensuite, il faut voir, quand les alumineries s'installent à quelque part, ils le font pour une raison. L'aluminium, essentiellement, ça prend énormément d'énergie pour faire ça. C'est pour ça qu'on a des alumineries au Saguenay, dans des régions près de là où on a des barrages, parce que l'énergie coûte moins cher, parce qu'on a un gros avantage en termes de ressources naturelles à ce niveau-là. C'est pas parce qu'on fait la matière première ici, c'est parce qu'on a la ressource naturelle qui est l'énergie. Les États-Unis ont des coûts d'énergie qui sont beaucoup plus élevés. Donc, même s'ils voulaient repartir une aluminerie demain matin, les coûts de production seraient tellement élevés que finalement, c'est les Américains qui se ramassent à payer des tarifs sur l'aluminium parce que ça coûte moins cher de l'importer, même avec le tarif, que de le produire sur place.
Dans ce sens-là, est-ce qu'il y a des chances que Donald Trump soit ouvert à la discussion ou tu crois qu'il va tenir sa ligne dure?
Je pense qu'il y a des chances que les États-Unis, en général, soient ouverts à la discussion du gouvernement américain. J'ai l'impression que le président Trump va tenir la ligne dure, mais c'est quelqu'un qui est très difficile à lire. Tu sais, c'est quand même quelqu'un qui disait je préférerais pas signer l'accord, mais peut-être que je vais le signer
Ouais, c'est ça,
finalement.
exactement.
Qui a aussi annoncé des tarifs un peu en montagne russe. Je pourrais pas dire que j'ai nécessairement une lecture de ce que lui va faire. Par contre, ce que je vois, c'est que ben, il y a quand même beaucoup de difficultés avec la question des tarifs. Parce qu'il y a beaucoup d'élus républicains, puis beaucoup d'élus démocrates qui sont pas de son bord là-dessus. Et surtout, s'il veut justement mettre fin à la CIUM. Mettons qu'il voulait y mettre fin puis s'en retirer, il y a un processus pour ça. Mais le processus nécessite l'accord du Congrès. Puis je crois que si c'était réellement son objectif, je pense qu'il est en même temps conscient qu'il n'aurait pas l'accord du Congrès pour le faire. Fait que ça, c'est quelque chose qui nous aide un peu à avoir un peu plus confiance en ce qui va s'en venir là-dessus.
En terminant, Renaud Brossard, vice-président communication pour l'Institut économique de Montréal, en entrevue dans Marceau le matin avec nous hier matin, et François Blanchet, le chef du Bloc québécois, disait craindre dans les négociations pour la gestion de l'offre. Est-ce qu'il fait bien de craindre ou non?
Écoutez, j'espère que ces craintes vont se matérialiser. Puis je vais être vraiment très franc, là. Pour moi, la gestion de l'offre, si c'est pour faire rentrer, si on la laisse tomber, ça devrait pas être pour plaire aux Américains. Mm-hmm. Si on la laisse tomber, ça devrait être parce que c'est quelque chose qui coûte cher à toutes les familles canadiennes tous les ans, là. Si on a des tarifs douaniers de 300% sur certains produits, c'est parce que ça nous coûte tellement plus cher acheter les produits de la gestion d'offre que ce qu'on pourrait obtenir avec du libre-échange. Je pense qu'on devrait se débarrasser de la gestion de l'offre. J'espère que c'est quelque chose qui va enfin tomber, mais on devrait pas le faire pour plaire aux États-Unis. On devrait le faire parce que c'est une bonne mesure. On calculait à l'IEDM, ça coûte à peu près 224$ par Canadien par année maintenir la gestion de l'offre. Je veux dire, ça, c'est des choses que n'importe qui, quel que soit le niveau de revenu, paye. J'ai quand même de la misère à me dire qu'on va demander justement à des gens qui ont de la misère à arriver à la fin du mois de payer 224$ de plus par année pour justement protéger un secteur avec des marges de profit qui sont quand même assez significatives.
Renaud Brossard de l'Institut économique de Montréal, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous pour nous éclairer sur l'ACEUM, j'appelle ça l'ABC de cette entente. Un grand merci.
Toujours un plaisir. Bonne journée.
Salut Renaud. Renaud qui frappait en relève de notre ami Gabriel Giguère qui est en vacances. Justement au Saguenay, il m'a dit ça. Je suis en vacances 2 semaines au Saguenay. Profite-en bien, mon Gabriel. Il va être disponible pour toi et Mathias.
Toute l'été,
Gabriel Giguère.
Dieu sait que l'économie en ce moment, là, c'est le nerf de la guerre.
Oui. Oui, puis là, on parlait du Québec qui était affecté justement par ces tarifs-là, beaucoup en raison de l'aluminium et du bois d'œuf. Puis le Québec est affecté par une autre crise, Pascal, c'est celle du reprenariat. C'est très difficile à l'heure actuelle pour les entreprises de se trouver justement quelqu'un pour reprendre leur entreprise. Fait que des entrepreneurs florissants, comme on vient d'avoir avec Audrey Anne Pouliot, bien, c'est tough pour eux autres de trouver la relève. Et on va en parler après la pause avec Pierre Graff, qui est PDG du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, parce qu'ils ont fait une étude indépendante puis ils ont des demandes à faire au gouvernement. Ça tombe bien, on arrive en campagne électorale.
C'est parmi ces gens-là, entre autres Pierre Graff, là, ouais, qu'on a consulté en fait sur le sujet il y a quelques mois. Je ne sais pas si tu te rappelles, on a fait un reportage, puis eux, ils lâchent pas l'affaire.
Exactement, ils lâchent pas le morceau. Puis il va falloir que tu me parles de ton histoire aussi. C'est quoi l'embryon?
Nouvelle.
Ouais.
La nouvelle dont je te parlais
tantôt. Il va falloir que tu me parles de ça après la pause.
Ouais, l'embryon congelé qui aurait été utilisé à l'insu du père par une ex-conjointe.
C'est ça.
Ouais.
Assez weird.
Ouais, pour ça, $1 million.
On parle de ça après la pause. Salut! Jusqu'à 4. On a de la belle visite en studio avec Pierre Graff, président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce. Mais là, avant Pascal Cévé, ça fait 2 fois que tu me teases cette histoire-là. Poursuite $1 million. Une ex qui s'est inséminée avec les c'est ça, là, avec...
Laisse-moi le dire, je te le dis, c'est trop spectaculaire.
Ouais, c'est ça, vas-y. Donc, raconte-nous ça parce que c'est invraisemblable.
Posez-vous la question, OK? Comment vous réagiriez dans cette situation? Alors, ça part, et ce n'est pas une série Netflix, en passant, c'est une vraie poursuite de $1 million qu'un homme a intenté contre son ex-conjointe. Pourquoi? Parce qu'elle aurait utilisé un embryon qui était congelé pour tomber enceinte de son ex.
Ouais.
Donc, cet homme-là est rendu père d'un enfant avec son ex.
Avec son ex. Puis là, s'il est plus avec son ex, ben c'est peut-être parce qu'il voulait pas nécessairement être en coparentalité avec elle non plus.
Et l'homme a donc dit, ben moi, c'est bien de valeur, mais je poursuis pour $1 million le médecin du Centre de fertilité de Montréal. Il allègue que la clinique s'est pas assurée de son consentement, donc qu'il a jamais offert ce consentement-là.
Ben non, c'est ça.
Avant que son ex vive l'implantation de l'embryon. Donc, oui, ensemble, quand ils étaient en couple, ils avaient fait congeler comme ça des embryons. Mais la rupture a eu lieu autour du 3 octobre 2025. Dans la poursuite qui vient d'être présentée à la Cour supérieure, le plaignant lui dit que le transfert d'embryon a été effectué en clinique le 15 octobre. Donc, séparation le 3, 15 octobre,
Tom.
Insémination, sans son accord. L'enfant est né en juin 2026. Okay. Les ex-conjoints ont déjà un enfant de 3 ans. pendant leur mariage, c'est là qu'ils auraient fait congé les embryons pour usage futur. Plus je lis l'article, plus je lis la poursuite, qu'on apprend, c'est spectaculaire. C'est une signature qui aurait été falsifiée. Donc, toujours selon la poursuite, là,
la signature
du plaignant aurait été falsifiée par son ex-épouse sur le formulaire de consentement de la clinique. Alors, peut-être c'est pour ça que la clinique dit ben, consent, mais c'est une signature falsifiée selon lui. Il fait valoir que c'est une mauvaise conduite d'anégligence, que c'est des dommages personnels, moraux, psychologiques. Il vit de la détresse, de la colère. Il a subi un choc. Il estime avoir perdu le contrôle de décisions fondamentales de reproduction affectant sa vie et son futur.
Hey, c'est bien clairement. Non, mais. Puis peut-être que cet homme-là, là, j'ai mis une hypothèse, peut-être qu'il voulait pas être père.
Ben, c'est ça.
Puis c'était une raison de la séparation, mais il se retrouve père.
Ah, ben ça, je sais pas le pourquoi, mais clairement, il voulait pas être père parce qu'il dit qu'il a été placé dans une position de devenir père d'un enfant conçu des suites d'une procédure auquel il a pas consenti.
Oui.
Imagine l'enfant aussi. Ouf. Moi, tu sais, des parents qui chicanent là, une séparation puis qui se font suer l'un l'autre. Les dommages collatéraux, c'est pas envers ton ex-partenaire en premier que t'es fait vivre, c'est envers les enfants. Les enfants que
t'as tellement raison.
T'es supposé aimer en passant, là.
Oui.
Puis tu t'es en train de détruire ça, là. La psychologie, le bien-être de ton enfant en faisant suer ton autre partenaire. Moi, ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Mes parents sont séparés, je te l'ai toujours dit. Moi, mon père, c'était indéniable. Il n'y avait pas un manque de respect à avoir envers ma mère. Puis je pense que c'est ce qui a mené à ce que ça se fasse bien. Imagine, toi, t'es issu d'un couple qui est en séparation. Ton père te voulait pas, ta mère le fait dans son dos.
Et quand on dit qu'on n'est pas tous égaux, hein?
Spectaculaire.
Ben, c'est spectaculaire, certain.
Alors, c'est une sûr. Poursuite en responsabilité.
C'est sûr que cet enfant-là va avoir des carences émotives dans son développement.
Écoute,
c'est clair.
Est-ce qu'on peut être assuré de ça? Non, mais je suis un peu d'accord avec toi. Il y a des dommages collatéraux fort probablement qui pointent le bout du nez. Là.
Alors là, tu sais, j'irai pas jusqu'à l'affirmer à 100% ce que je vais dire parce que là, il y a des processus en cours et ainsi de suite, puis il y aura justement à valider des choses. Mais la femme, si tout cela est vrai, a juste pensé à elle aussi là-dedans. Là.
Puis tu sais, moi, j'aime beaucoup, tu le sais, l'exercice de droit. Là. J'ai toujours été passionnée par ça. Puis là, il y en a un quand même assez important là-dedans. Parce que, bon, c'est une poursuite en responsabilité à l'égard du médecin dans la clinique de fertilité. Mais est-ce que l'enfant peut, en droit de responsabilité, incarner un dommage aussi plus tard? C'est la question qu'on se pose.
Hein, c'est une bonne question, ça.
Je trouve ça super intéressant en termes d'exercice de droit. Là.
Vraiment.
On s'entend, là, c'est triste pour l'humain. Mais bref, c'est une cause qui est à suivre. Puis on dit que ça pose une nouvelle fois beaucoup de questions sur le sort d'un embryon qui est congelé, notamment après une rupture. Puis c'est des enjeux qui aussi sont discutés dans la science parce que là, on essaie tout le temps de repousser les possibles. En 2025, un bébé qui est conçu 30 ans plus tôt a vu le jour. L'embryon avait été congelé en 1994, donc il est né en 2025. T'sais, la science veut toujours évoluer, veut toujours avancer, mais là...
Non, exactement. On va suivre ça. J'espère que nos services sociaux vont suivre le tout également pour donner les soins et les services à cet enfant-là. Merci, Pascal, pour cette histoire rocambolesque. Il y a quelque chose qui est dans le domaine des naissances aussi. C'est les naissances d'entreprises.
Hein?
On décide de faire naître nos entreprises. C'est bon, hein, mon lien? C'est le teuil. On en jase.
Mais 100% je sais que t'étais de bonne foi.
Puis là, ben, un coup qu'elle est née, elle fleurit, elle grandit, elle prend de l'expansion. Mais là, à un moment donné, on devient soufflé et on dit, ben, à qui je vendrais bien cette entreprise-là?
Tu veux pas être en Guy, là? Tu veux pas qu'il reste...
C'est ça. À qui je voterais bien? À qui je vendrais bien cette entreprise-là? T'es comme avec un enfant, tu trouves-toi une blonde, mais là, trouve-toi un nouveau propriétaire avec l'entreprise. C'est plus difficile. Et pour en parler avec nous, on a Pierre Graff du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Pierre, comment vas-tu?
Très bien. Merci pour l'accueil, Jeff.
Ça fait plaisir. Pierre, dis-moi donc, vous avez commandé une étude justement sur le repreneuriat parce que c'est quoi? C'est à peu près une entreprise sur deux présentement qui se retrouve dans cette situation-là d'essayer de chercher un nouveau propriétaire.
En fait, c'est un peu plus. On est à 76 % des entreprises transférées dans les 10 prochaines années. Et justement, ben, on étudie des moyens de faire en sorte d'accélérer justement la transmission d'entreprises, que ce soit à d'autres sociétés qui peuvent les acheter ou à des personnes tierces. L'enjeu qu'on avait présentement, et on le voyait beaucoup sur le terrain, c'est d'ailleurs un enjeu qui a connu beaucoup de rebondissements au cours des dernières années, c'est qu'au niveau de la fiscalité, je vais donner un exemple, lorsqu'un propriétaire d'entreprise vend son entreprise en intégralité, soit à un concurrent, soit par exemple à une société américaine, eh bien, il bénéficie d'un traitement spécifique au niveau du gain en capital. Il bénéficie aussi d'une exonération cumulative en gain en capital et va payer moins d'impôts que si ce même propriétaire d'entreprise vendait, par exemple, à ses enfants ou en partie de manière progressive à quelqu'un, par exemple, dans son entreprise.
Puis nous, on parle de ça juste en 2026, Pierre. Ouais.
Exactement. Ben là, ça s'applique là, depuis longtemps, la loi. C'est l'article 84.1 de la loi sur l'impôt sur le revenu.
Ben non.
Alors, ça fait pas de sens. À la base, c'est une loi qui existe parce qu'on pensait qu'il y aurait éventuellement des gens qui contourneraient l'impôt de cette manière-là en le transmettant à leurs enfants. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que, ben, vous savez, plus on est jeune, moins on a la capacité financière de racheter une entreprise.
C'est clair.
Et en ce moment, ben, ça fait qu'on a soit les entreprises où d'un côté, on a des propriétaires vieillissants qui investissent moins. Donc là, l'économie va en pâtir. Soit c'est racheté par des intérêts étrangers dans ce temps-là, ben, ça veut dire qu'on perd souvent des emplois. Les profits partent aussi à l'extérieur, ne sont pas réinvestis au Québec. Et dans certains cas, on a aussi des fermetures. Et nous, ce qu'on a démontré avec cette étude, c'est que c'était plus rentable pour le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux de supprimer cette règle-là, puis de faire en sorte qu'on est capable de transférer de manière progressive ou partielle son entreprise plutôt que de la vendre exclusivement en intégralité. Parce que sinon, les propriétaires d'entreprise qui souhaitent vendre en ce moment sont vraiment pénalisés, ce qui fait qu'ils augmentent le prix pour équilibré avec la pénalité fiscale. Et dans ce temps-là, ça fait qu'il y a de moins en moins d'acheteurs capables d'acheter ça.
Donc, si on retire cette pénalité fiscale-là, qui n'a pas de sens, là, on vient de la décrire, elle ne fait aucun sens, le gouvernement gagnerait au change. Donc, on renforcerait le coffre des finances publiques.
C'est là que l'étude économique est intéressante. Il faut savoir que les revenus qui sont liés à cette mesure-là sont environ de 310 millions de dollars au niveau du gouvernement fédéral sur 5 ans.
OK.
Okay? Donc ça, c'est ce que ça coûterait évidemment de l'enlever. Mm-hmm. Par contre, quand on met en place une nouvelle mesure fiscale, ce que ça va apporter, c'est des gains aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous, on a calculé, selon le modèle et des paramètres qui sont d'ailleurs assez conservateurs au niveau de l'étude économique, que parce qu'on va transférer les entreprises, parce qu'il va y avoir des gains de productivité, parce qu'on conserve des emplois, etc., etc., eh bien, non seulement le gouvernement fédéral se rembourse, mais en plus, il y a des gains pour les gouvernements provinciaux assez importants. On parle juste pour le Québec de 100 millions de dollars sur 5 ans, en plus dans les caisses du gouvernement du Québec.
D'assurer ou en termes de projection, selon toi?
En termes de projection, c'est notre modèle qui a été fait, comme je l'ai dit. Puis l'économie est un jeu de modélisation. Mais comme je le dis, on a pris des paramètres très conservateurs parce qu'on a une responsabilité aussi envers le type de contenu qu'on produit. Mais l'économiste indépendant avec qui on travaille, qui a validé l'étude, disait que tout était conforme. Et donc, on pense que c'est vraiment une règle qu'il faut modifier parce qu'on est vraiment un point de basculement en termes de transfert d'entreprise. Et il faut vraiment accélérer parce qu'en ce moment, ça ne va pas assez vite.
Bon, on aimerait ça les garder aussi à l'interne, ces entrepreneurs-là, ces entreprises-là, ces emplois-là. Tu le dis très, très bien. Toi, tu es dans la jeune Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Récemment, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec a reçu Christine Fréchette. Ça fait peut-être 2-3 semaines. Elle a fait une allocution et elle a parlé de reprenariat comme étant dans ses priorités pour, si jamais elle est élue, comme prochain gouvernement, mais aussi au sein de la CAQ. Ça semble être quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement dans notre anglement, mais qui hyper, hyper, hyper important. Du jour au lendemain, c'est quoi les répercussions que tu vois si on ne prend pas les mesures appliquées, au moins de changement dont tu nous évoques aujourd'hui?
Oui, j'ai suivi ça. Alors, c'est sûr que je reste dans la région de la capitale nationale, bien que je travaille à Montréal et que je me batte beaucoup en région. Puis je salue d'ailleurs au passage le travail extraordinaire que fait l'une des 40 jeunes chambres que j'ai le plaisir de représenter, la Jeune Chambre de commerce de Québec, qui est très, très dynamique. Et en fait, il y a un enjeu qui est immense pour notre économie. Là. On a une économie de PME au Québec. 99% des business sont considérés comme des PME, 1% sont considérés des grandes entreprises. Donc forcément, notre tissu économique repose majoritairement sur ces entreprises-là. Et puisqu'on doit en transférer les trois quarts dans les 10 prochaines années, forcément, si on ne le fait pas bien, il y a des entreprises qui vont fermer, il y a donc des emplois qui vont être perdus. Et il faut se rappeler que l'économie, c'est un jeu de domino. Quand il y a un domino qui tombe, il y a une succession de dominos qui tombent. Alors, une entreprise qui ferme, c'est des emplois perdus. Donc, c'est des personnes qui payent moins d'impôts, qui consomment moins, qui ont besoin d'aide sociale. Donc, ça pèse des deux bords du côté du gouvernement. Aussi, plus un propriétaire est vieillissant, plus c'est prouvé qu'il va moins investir. Donc, c'est-à-dire qu'il fait moins travailler les fournisseurs. dans la région ou peut-être à travers le Québec, à travers le Canada. Et donc, au final...
On devient en arriérage aussi en termes justement de technologie.
Et exactement. Donc, on parle même dans le transfert d'entreprise, on se met beaucoup de dette technologique parce qu'il y a eu tellement d'années où l'investissement au Québec était en retard sur le reste du Canada et évidemment par rapport aux États-Unis, que il y a un retard à combler. Et donc, ça veut dire que non seulement on achète une entreprise, mais il faut être prêt à investir pour retrouver un certain niveau de compétitivité. Donc, forcément, ça pose des problèmes. Donc, fermeture d'entreprise, rachat par des intérêts étrangers, je l'ai mentionné.
Déménagement des sièges sociaux, etc.
Déménagement de sièges sociaux. Et c'est pour ça que les élus ont une responsabilité immense, notamment au niveau de la réglementation plus administrative, ce qu'on appelle le red tape, mais aussi en termes de fiscalité, pour rendre à la fois l'entrepreneuriat, le repreneuriat et l'investissement attractifs. Parce qu'au final, c'est ça qui permet de générer de la croissance et qui ensuite permet de créer de la redistribution comme on le souhaite dans la société québécoise.
Est-ce que si le prochain gouvernement qui est élu ne prend pas en main le repreneuriat, on va être rendu au point de bascule, c'est-à-dire qu'il va être trop tard?
Ça, l'avenir nous le dira, mais c'est sûr qu'au Québec, on voit que la croissance est quand même relativement faible. Alors oui, dernièrement, on a un peu comblé l'écart qu'on avait avec l'Ontario, mais si on regarde vraiment au niveau canadien, l'économie sous-performe clairement par rapport au G20. Et c'est sûr que la raison pour laquelle, malheureusement, on ne performe pas, c'est lié en priorité au fait qu'on n'investit pas assez.
Mm-hmm.
Et ça, que ce soit au niveau des nouvelles entreprises qui sont créées, qui sont un moteur d'innovation, que ce soit au niveau des entreprises qui existent et aussi de la qualité par laquelle on est capable de transférer les entreprises et donc d'investir. Parce que juste sur les 10 dernières années, je vous donne un chiffre que je trouve extrêmement important. Ça a été prouvé sur les 10 dernières années au Québec que toutes les entreprises qui ont été transférées ont gagné dans l'année qui a suivi 11,1% de productivité en plus.
Wow!
Transféré à quelqu'un de l'entreprise et
ou à
l'enfant.
Ou à l'externe, etc.
Mais à l'intérieur du Québec.
C'est ça, ben, au Québec, les entreprises québécoises. Et ça, c'est important. Lorsqu'on sait que les 10 dernières années, la productivité au Canada a seulement augmenté de 0,5%.
Wow, fulgurant.
Donc, ça, c'est
11,4%. Donc, c'est 22 fois plus.
Quand on sait qu'il faut aller très rapidement pour suivre la technologie et les niveaux de productivité.
Exactement.
Maintenant.
Donc, on a un intérêt à créer un environnement qui est favorable à ce qu'on transfère plus d'entreprises au Québec. Idéalement, on le souhaite à des gens, soit de la famille, puisque deux tiers des entreprises sont familiales au Québec, soit à des employés, soit à des gens de l'externe, mais de garder vraiment les sièges sociaux et la propriété québécoise.
On retient donc que la mesure qui avait été mise en place il y a quelques années pour éviter un genre de débordement ou un risque qu'il y a des entrepreneurs qui flouent le gouvernement, là, puis qui s'en mettent dans les poches en transférant ça aux enfants, entre autres, faudrait qu'elle soit mise de côté. Qui est ce risque-là qui existe, mais que ce ne soit pas la principale cause du pourquoi on ne fait pas les choses et qu'on ne transfère pas les entreprises. Il y a une entreprise au Québec qui était extrêmement connue, appréciée, qui avait été modernisée sur le web. Les enfants étaient impliqués, ils avaient développé l'entreprise. Ils ont toujours voulu racheter. Okay? Puis les parents ont vendu à l'extérieur de leurs enfants parce que, entre autres, il y avait cette technicalité-là. Ils n'étaient pas capables de vendre à leurs enfants.
C'est très
problématique. La famille est déchirée.
C'est très problématique. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu beaucoup de témoignages hier, notamment d'une personne parce que le gouvernement fédéral tergiverse en fait depuis 5 ans sur cette règle-là. Ils avaient introduit en 2021 la loi C-208 qui mettait fin à ce régime-là. Et finalement, en 2023-2024, ils sont revenus en arrière avec la loi C-59. Puis on se retrouve dans cette situation où les gens qui ont vendu parce que la législation C-208 permettait justement de bénéficier d'un régime fiscal avantageux, ben finalement n'ont pas eu le droit d'encaisser l'argent et doivent maintenant de l'argent au gouvernement fédéral. Donc j'ai eu un cas très précis hier où on m'a écrit, puis une mère de famille qui a vendu une entreprise de fenêtres à Saint-Jérôme à ses enfants doit aujourd'hui 200 000 $ au gouvernement parce qu'ils ont changé la loi puis ils sont revenus en arrière. Et ça, c'est pas normal et c'est pas un contexte de prévisibilité fiscale et réglementaire qui est favorable à nos entrepreneurs.
En effet. Pierre Graff, tu sais que le micro de Boulevard 101 dont on en jase est toujours disponible pour toi. Je te souhaite une belle période estivale, mais on se reparle au besoin.
Merci, belle été
cool.
à vous deux.
Merci beaucoup. Pascal, on va déjà mettre fin à cette émission-là. Donc, demain, c'est
déjà
congé.
Fini.
Ben oui, déjà fini. Demain, c'est congé, mais restez à l'antenne de Boulevard 101 parce que ça va être le boulevard du rock avec Colosse. Les meilleurs classiques canadiens.
Tellement bon, lui.
Du Harley des Peas, vous en voulez? On va en avoir rien qu'en masse. Du Moist, etc. C'est les meilleurs artistes canadiens qui vont être en ligne. Et nous, on se reparle jeudi à midi.
Avec plaisir.
Salut!
Salut! Jusqu'à 80.